Okay. Ladies and gentlemen, please welcome.
Mesdames et messieurs, bienvenue à nouveau. Monsieur le Président, directeur de ICANN, Peter Dengate-Thrash. Merci beaucoup. Prenez place, mesdames et messieurs. Nous allons commencer la seconde partie du programme. Nous allons commencer par une discussion sur une nouvelle partie du budget, une nouvelle portion du budget qui doit inclure le nouveau programme GTLD dans un budget séparé. On en a parlé de nombreuses fois dans d'autres discussions budgétaires. Je demande à Kurt Pritz de prendre la parole. Avant cela, je pense que certains d'entre vous ont pensé que j'ai été dédaigneux des questions de George Smith. Mais George est toujours en ligne et nous allons certainement répondre à ces questions. Je vais demander à Doug de répondre à ces questions. Merci, Peter. Je sais qu'une des questions portait sur les réponses, sur les dépenses, pardon, associées au bureau de Palo Alto. Alors, et comme d'autres ici, je voulais avoir un t-shirt qui dise non, il n'y a pas de DNS cert intégré dans le budget et il n'y a pas de studio de télévision intégré dans le budget. En ce qui concerne les dépenses de Palo Alto, ce que le directoire a approuvé en septembre a été un budget de plus de 10 ans pour cette infrastructure, pour les frais d'occupation, de $400,000 au cours de la première année jusqu'à $575,000 dans la 10e année. Donc, 5 100 000 $ pour 10 ans. Je ne me rappelle pas exactement la date de la réunion du directeur en septembre 2009, mais vous pouvez trouver ces informations à cet endroit-là, dans le rapport de cette réunion, par rapport à ces dépenses d'occupation. Alors, les dépenses, donc c'est un bâtiment. Donc, les autres dépenses associées à l'occupation, donc de $500 à $600, qui sont amorties dans ces dépenses totales. Donc, les dépenses totales sont d'environ $400,000 en commençant dans l'exercice fiscal 2011. Je pense que la prochaine question, c'est par rapport aux personnes dont nous avons besoin, personnes compétentes. Je crois que il faut que nous puissions recueillir, que nous puissions attirer les talents techniques les meilleurs aux États-Unis, certainement en Californie, qui existent en Silicon Valley. C'est un des défis à relever par ICANN, parce que bon nombre de nos employés sont venus récemment de Silicon Valley et nous avons annoncé Elise Grish, Windafi et moi, nous sommes des résidents de Silicon Valley. Notre bureau de l'Australie est la seule présence ICANN que nous avons dans la région asiatique. Et je pense que ICANN doit en permanence surveiller ses dépenses, regarder comment nous faisons fonctionner notre bureau de Bruxelles. Un de mes points les plus importants d'orgueil, une des raisons pour lesquelles je suis orgueilleuse, c'est que nous sommes fait critiquer pour le loyer que nous payons sur notre loyer de Bruxelles, parce que notre budget était tellement détaillé. Vous pouvez voir le montant de loyer que nous payons en Bruxelles. Nous allons peut-être envisager de nouvelles infrastructures à Bruxelles et nous évaluons constamment toutes nos infrastructures. Ne vous inquiétez pas pour contenir nos dépenses. Donc, ce sont deux des questions. En ce qui concerne la troisième question, nous avons examiné la proportion de personnes qui recevaient plus de $200,000 par rapport à d'autres organisations sans but lucratif. Je ne connais pas la réponse de comment comparer notre proportion à d'autres. La quatrième question était si nous connaissions d'autres organisations sans but lucratif qui utilisent des points de référence d'organisations à but lucratif en payant leur rémunération. Je ne peux pas vous donner des noms comme ça, mais je peux travailler avec le consultant sur les rémunérations utilisées par ICANN et nous avons essayé de regarder les points de comparaison appropriés et ils nous ont assuré qu'en fait, c'était un bon pont de comparaison. Nous avons réfléchi à la possibilité de nous recomparer à d'autres organisations comparables. Et en fait, nous avons examiné la proportion de personnes assez bien payées chez ICANN par rapport à d'autres organisations sans but lucratif. Je pense que c'est une bonne question par rapport à laquelle nous pouvons nous comparer, nous confronter. Mais je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Voilà, c'était pour toutes les questions. Très efficace. Très bien. Passons maintenant au programme de nouveau GTLD, au budget spécial qui a été publié par rapport au nouveau GTLD, comme nous l'avons dit un certain nombre de fois dans la discussion budgétaire, nous développons actuellement le nouveau programme GTLD. Je vais demander à Kurt, qui a mené ce nouveau programme de GTLD pendant de nombreuses années, de nous présenter brièvement le budget. Merci, Peter. Trop d'années. Comme vous le savez, dans notre reporting budgétaire, nous avons constamment investi dans le nouveau programme GTLD pour le faire fructifier avec sagesse. On utilisait les contributions des registrants, des registres et des registraires pour réaliser les tâches qui sont nécessaires pour développer le programme. Bon, alors que vous vous préparez à lancer un programme, il y a toute une série de coûts que l'on ne veut pas, de montants que l'on ne veut pas dépenser jusqu'à ce qu'on ne soit pas sûr que le programme soit lancé. Et on est, ou alors lorsqu'on est tout à fait certain que de la date à laquelle le programme va être lancé. Donc la catégorie la plus simple, ce sont les programmes de type opérationnel. C'est l'engagement des panels qui vont se charger des évaluations, c'est d'obtenir les infrastructures qui peuvent accueillir les opérations pour réaliser les évaluations, ce type de choses. Et ensuite, avant cela, il y a une famille de coûts que nous appelons coûts de déploiement, qui sont l'obtention de licences, de logiciels, c'est avoir accès pour pouvoir utiliser le logiciel pour faire fonctionner le programme, faire travailler sur certaines parties du programme de communication. Ce ne serait pas fiscalement prudent de dépenser cet argent jusqu'à ce que vous êtes certain de la date du programme. Donc on n'est pas sûr que ces coûts ne sont pas synchronisés avec le budget de l'ICANN et l'année calendrier ou l'année budgétaire. C'est la raison pour laquelle nous disons depuis un certain temps que nous allons établir de nouveaux budgets GTLD et publier cela pour obtenir les réactions de la communauté et nous allons passer par le même type d'évaluation transparente avec la participation du public que ce que nous faisons avec le budget régulier de l'ICANN. Alors, il y a une seconde raison qui justifie l'établissement d'un nouveau budget GTLD séparé, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive à la partie où ICANN reçoit les cotisations des demandeurs et dépense tout cet argent pour évaluer les cotisations et pour atténuer les autres coûts, c'est un chiffre assez énorme qui a peut-être tendance à recouvrir, à avaler un peu le reste, à engloutir un peu le reste. Donc ça a du sens de maintenir ces coûts et ces flux de liquidités séparés pour qu'ils puissent être administrés de manière efficace, précise et transparente. Et c'est la raison du budget. Si vous lisez le document budgétaire, il est bref. Il requiert 6,2 millions de dollars, ou c'est 2,6 millions de dollars. À 2,6 millions de dollars, ce sont ses coûts de déploiement. Et ensuite, on voit les coûts d'exploitation, les coûts d'opération, les coûts de réception et d'évaluation de chacune des demandes comme budget permanent. Et donc, je vous invite vraiment à lire cela. Donc, s'il y a des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Donc, merci, Kurt. Les questions, ensuite, les commentaires par rapport au budget pour le nouveau programme GTLD. Nous allons avoir une discussion sur le nouveau programme après ceci. Donc, je cherche à recueillir des commentaires à ce sujet. Donc, simplement des commentaires par rapport à l'année budgétaire, à l'exercice budgétaire, le budget qui a été publié. Elliot Noss. Kurt. Et le dos de Tecose, nous envisageons toujours les cas où il y a de la contention en matière de chaîne de caractères, comme nous recherchons des moyens de rompre cette contention, cette limitation, la possibilité de collecter des fonds, donc des fonds supplémentaires. C'est une des choses que je demande depuis un certain temps maintenant, même si ce n'est pas sous le nouveau régime du CEO. Je remarque que nous commençons à nous projeter un peu trop vers l'avenir en ce qui concerne ce qui pourrait devenir un excès important, un dépassement important. Je remarque qu'au niveau budgétaire, je pense qu'il serait imprudent pour l'organisation de compter sur ce dépassement. Moi, je suis quelqu'un qui dirige une société et je ne compterai jamais sur quelque chose comme ça. Je pense que c'est tout aussi imprudent de ne pas envisager la probabilité que cela se produise. Donc, ce que j'ai demandé par le passé, je vais le redemander. Je dis que nous commençons à nous projeter un peu trop vers l'avenir et nous n'avons pas encore ce supplément budgétaire dans nos coffres, mais au lieu, nous devrions vraiment essayer de constituer, de créer quelque chose qui permette une utilisation productive de ces fonds et qui serait plus lié au bien de l'Internet. Il y a un certain nombre de membres du directoire qui ont exprimé leur soutien à ces propositions au cours du temps, mais et le rappel a certainement été entendu. Je suis Ellen Preuss de Minds and Machines. Je suis ici pour poser une question que notre groupe de travail pose. Il essaye de produire des manières de trouver des moyens d'aider les demandeurs défavorisés. Et c'est une question à laquelle nous n'avons pas pu trouver de réponse. Et la question est la suivante. Nous avons un poste ligne de 60 000 $ dans la cotisation qui correspond à la demande pour l'atténuation des risques. Et nous ne savons pas ce que ça signifie. Est-ce que vous pouvez nous donner une évaluation en 2 minutes de ce que cela représente? Et si vous avez 60 000 $ par demandeur, et si vous attendez 500 demandes, ça fait 30 millions. Est-ce qu'il y a tant de risques? Merci. En fait, vous parlez des risques de litige. Je vais laisser Kurt John vous expliquer sur la provision pour les imprévus, pour couvrir les imprévus dans le budget. Alors, ce chiffre a été élaboré parce que c'est un ensemble de coûts à faible probabilité et de haute valeur. Les litiges en justice sont un de ces problèmes. Il y a aussi les coûts associés avec les infractions en matière de sécurité. Et c'est un autre de ces points-là. Il y a d'autres choses qui se produisent, mais c'est une valeur actuelle. En d'autres termes, ce sont ces coûts multipliés par la probabilité que cela va se produire, que ces risques risquent de se concrétiser. Donc, au bout du compte, nous pensons que les coûts définitifs pour l'ICANN seront ce montant. Ça prendra plusieurs années, en tout cas, pour se concrétiser, parce que ces coûts, pour que tous ces coûts soient... pour qu'il faille dépenser tout cet argent, il y a plusieurs années qui s'écoulent, évidemment. Ce n'est pas en un moment spécifique, c'est au cours du temps. Alors, nous avons interviewé toute une série de compagnies d'assurance qui assurent ce type de risque. Et ils nous ont donné des informations qui viennent de la direction et ils nous ont aidés à identifier les coûts pour ces risques potentiels. Et donc, on a fait une analyse de probabilité, une analyse financière pour arriver à ces chiffres. Donc, il y a des études considérables qui ont été réalisées avant d'arriver à ces chiffres-là. Ils ne sont pas tombés du ciel. Alors, une grande partie de cette incertitude provient de la peur de l'inconnu. Et au fur et à mesure que ce programme se déroulera, il y aura de plus en plus de risques qui seront mieux connus. Et donc, cette partie des cotisations diminuera parce que certaines des incertitudes seront résolues, deviendront des certitudes. Alors, qu'est-ce que vous appelez les demandeurs désavantagés? Je ne sais pas pourquoi, ou défavorisés. Je ne sais pas pourquoi ces demandeurs défavorisés veulent rentrer dans le premier round. C'est vraiment le round qui coûte le plus cher. Donc, il faut peut-être examiner le degré d'urgence avec lequel ils entreprennent leurs actions. Est-ce que je peux répondre à cela? Alors, c'est peut-être intéressant, effectivement, pour ces demandeurs de poser leur candidature, de faire leur demande dans la second round, là où ils ne doivent plus payer les coûts de développement du programme. Les choses coûtent beaucoup moins cher. Mais une des réponses d'un participant dans le groupe de travail, c'est que la dernière fois que nous avons eu de nouveaux TLD, c'était il y a plusieurs années, et le risque d'attente pour ces demandeurs défavorisés est plus important que d'essayer de trouver, d'essayer de trouver un moyen de passer cette fois-ci. Merci. Donc c'est un exercice d'équilibrage des risques. Comme Kurt l'a mentionné, merci Peter, comme Kurt l'a mentionné, ce nouveau processus de GTLD traîne depuis un certain nombre d'années. Nous sommes maintenant à la version 4. Donc, une des choses que je trouve intéressante au cours de la première année, c'est que le coût d'une demande était de 185 000 $. Et c'était censé être un modèle de récupération des coûts qui permettait une récupération des coûts. Donc, ce que j'essaye de voir ici, c'est bon, nous avons eu 2 années de retard, peut-être des dizaines de millions de dollars ajoutés, mais la chose qui n'a pas changé, c'est la cotisation de demande, le coût de la demande qui est de 185 000 $. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à recomposer ce chiffre? Est-ce qu'il était correct à ce moment-là ou est-ce qu'il est correct aujourd'hui? En fait, la cotisation originale visait à absorber le coût de développement. Alors le programme a continué pendant un certain temps et les coûts de développement se sont en fait accrus parce que nous avons continué à dépenser de l'argent en développement. Alors au lieu d'augmenter les cotisations, l'idée c'est de le récupérer non pas sur la première ronde de demandes, le premier round de demandes, mais d'essayer de les absorber, d'absorber les coûts de développement au rythme de 25 000 dollars par demande pour autant de temps qu'il le faudra pour absorber les coûts de développement. Donc ça prendra probablement plus de temps que le premier round parce que ces coûts ont augmenté, les coûts de développement ont augmenté. Alors, nous voulons assurer pour ICANN que c'est vraiment la chose à faire. Ce n'est probablement pas la. Nous n'avons probablement pas fini notre travail avec les responsables des finances. Merci. Je suis un membre du groupe de travail sur le soutien aux demandeurs de nouveaux GTLD. Je parle en mon nom propre. Alors pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas ici hier, nous avons eu un magnifique panel sur ce sujet et au risque de sembler complimenter notre propre groupe, je pense que ça a été très intéressant. Nous avons discuté de trois types de supports différents. Nous espérons que la communauté de ICANN offrira ces nouveaux GTLD à ses demandeurs. Nous avons besoin de soutien pour la traduction, la sensibilisation, la consultance, le soutien technique pour IPv6 et DNSSEC et un soutien pour les aider à offrir des prix groupés. L'idée dont nous avons parlé à Nairobi et nous reconnaissons tous que ça va coûter de l'argent. Je pense que tout le monde, tous les participants dans le groupe de travail reconnaissent que le financement va devoir venir d'une série de sources différentes. Nous pensons qu'il est extrêmement important que l'ICANN soit une partie de ce financement, que nous trouvions des ressources à l'intérieur pour soutenir ces groupes. Mais finalement, je suis tout à fait d'accord avec la déclaration de Avery sur la nécessité d'assurer que le budget soutient tous les groupes de parties prenantes qui le méritent. J'espère que la communauté de l'ICANN va prendre très au sérieux le défi de soutenir ces nouveaux demandeurs de GTLD. J'ai une chose encore à vous demander, c'est-à-dire que nous avons mis toutes nos recommandations en ligne. Nous avons 2 semaines pour obtenir les commentaires des gens. Nous avons vraiment besoin du soutien et des suggestions de la communauté. Bonjour, je m'appelle Ken Stubb. Je parle en tant que personne privée. J'ai un peu d'expérience, environ 40 ans en comptabilité et en finance. Je suis un peu préoccupée. Comme vous le savez, nous prévoyons plusieurs centaines de registres qui seront probablement approuvés par ICANN. Je crois que nous sommes tous d'une manière ou d'une autre impliqués dans l'opération des registres et nous sommes informés des aspects financiers. Alors, il est tout à fait possible que nous finissions par devoir travailler avec des gens qui ont des plans d'activité qui présentent des failles. Alors tout d'abord, j'aimerais bien faire une recommandation à ICANN. Alors, c'est la suivante. Je pense que ce serait une très bonne idée de prendre cette problématique et d'expliquer à la communauté sous la forme d'un document comment vous pensez gérer tout cela. Parce que dans le cas des registraires, il y a un marché actif pour le portefeuille dans de nombreux cas parce qu'il y a une valeur dans ce qui reste. Mais dans le cas d'un registre qui a peut-être 5, 10, 20 000 enregistrements et qui est extraordinairement cher à opérer et peut-être dans une partie du monde où c'est très difficile, cela peut poser un problème. Je considère cela moi-même non pas seulement comme un problème commercial mais comme un problème de stabilité parce que chaque fois que vous créez un nouveau registre par contrat, en effet, vous créez ce que je considérerais comme une sorte de trusteeship pour la communauté, un investissement pour la communauté. Et donc, il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Alors, je vais demander à Bruce s'il peut nous aider. Merci, Peter. Ken, si tu regardes le projet de guide pour le demandeur, il y a une question sur les prévisions en matière d'imprévus, les prévisions d'urgence. Une partie de cette section, si je me souviens bien, c'est qu'une organisation doit établir, je pense, 3 années d'opération. à l'avance. Donc, ils doivent prévoir les fonds pour financer ces 3 années. Pour qu'il y ait au moins une transition de 3 ans. Je peux répondre très rapidement à Bruce. Je pense qu'ici, j'ai de nouveau d'un problème de conformité, parce que vous devez pouvoir identifier suffisamment tôt les problèmes et où ils se trouvent. Je vous connais tous, Rod, vous avez eu l'expérience de traiter ce type de problèmes commerciaux, donc il est extrêmement important, dans le cadre d'une fonction de supervision, d'assurer qu'on ait un système de reporting qui nous donne la possibilité d'identifier un problème potentiel suffisamment tôt pour créer une solution stable pour le résoudre. Ken, je pense que vous avez aussi soulevé un problème beaucoup plus excitant, plus intéressant, et c'est le concept selon lequel tous les registres vont continuer à fonctionner sous le même type de concept de tutelle. Donc ça peut être inhérent à une solution tout à fait nouvelle, qui soit beaucoup plus opéré par le marché que certains TLD jusqu'ici. Est-ce qu'il n'y a jamais eu un accord dans le cours de ce processus pour que chaque TLD soit traité de la manière dont vous voulez qu'il soit traité? Bon, je pense que c'est exactement comme le petit éléphant dans la pièce, comme on pourrait l'appeler. Je pense qu'il faut qu'il y ait davantage de délibération dans ce processus. C'est quelque chose que nous n'avons pas, une chose à laquelle nous n'avons pas suffisamment consacré de temps, et je pense que nous devrions. Le processus de commentaire public par rapport aux dispositions du DAG 4 auquel Bruce a fait allusion, c'est peut-être une manière de tester le marché là-dessus. Bonjour, je suis Bertrand de la Chapelle. Je suis représentant du GAC français. Ce n'était pas mon intention, mais je voulais simplement revenir une fois de plus sur la notion de la récupération des coûts. Alors, la notion selon laquelle les cotisations payées par les registrants, pas les registraires ni les registres, mais les registrants, payent à l'ICANN dans son budget, sont utilisées pour développer un programme dont l'objectif est de non seulement développer la concurrence, mais aussi de développer des avantages sociaux. Alors ça a du sens. L'ICANN a passé beaucoup de temps à explorer toutes les possibilités d'ouvrir tous les programmes GTLD de la meilleure manière possible. Alors, le fait que les cotisations soient basées sur le fait qu'il faut récupérer les coûts, couvrir les coûts, c'est un fardeau artificiel, nous l'avons dit plusieurs fois, c'est basé sur la fausse supposition selon laquelle l'argent dans le budget vient des registres et des registraires. Ce n'est pas plus vrai que l'idée selon laquelle le gouvernement français reçoit la taxe sur la valeur ajoutée que vous payez lorsque vous allez chez le boucher et que le boucher, il reçoit à partir du boucher. C'est le citoyen qui paye cette taxe, c'est le boucher, c'est le receveur, le percepteur. Les registres et les registraires sont les percepteurs des contributions au budget de l'ICANN. Tous les registrants ont contribué à un budget qui permet la construction d'un programme qui doit maximiser ses avantages sociaux. Alors, dans ce contexte, la France est préoccupée par le fait que l'évolution du programme augmente le fardeau pour les demandeurs potentiels, étant donné non seulement le coût élevé et pas seulement les exigences techniques très élevées que certains CCTLD très larges doivent considère qu'elle-même qu'elle n'aurait pas été capable de remplir, donc ces exigences très importantes. Et si on ajoute à cela, par rapport à la question de l'intégration verticale des règles qui ne sont pas en faveur des nouveaux entrants, le fait est qu'en outre, les demandeurs des pays en voie de développement ont des petits TLD, où la perspective, le point de vue des petits TLD va devoir exactement passer par la même racine, la même route, et va devoir se soumettre aux mêmes règles, et ça c'est un désavantage pour eux évidemment, ils vont être défavorisés. Ce matin j'étais au Parlement européen et une réunion qui était organisée avec l'aide d'un groupe technologique et linguistique européen. Je suis préoccupée par le fait que l'ensemble du programme est orienté vers une notion qui est en fait, qui ne va pas s'avérer être vraie parce que l'étude récente sur les avantages économiques et sociaux l'a démontré. Et par conséquent, en dernier commentaire, en réponse à Peter, lorsqu'il a dit pourquoi les pays en voie de développement ne pourraient-ils pas attendre le second round? Alors ma réponse brève est peut-être parce que ils ne savent pas quand ni si ce second round va se produire. Et j'ai peur que la manière dont cela a été géré jusqu'ici surcharge le premier round, parce que tout le monde va vouloir y être. Et la réalité, si on y réfléchit, le programme des nouveaux GTLD n'est rien de moins et rien de plus que la politique de nommage du second niveau du registre .root. Donc ce dont nous parlons, c'est ce qui est la politique pour l'entrée de noms de domaine au second niveau de la racine. Et cette politique, par rapport à cette politique, chaque TLD individuel en a parlé, beaucoup de l'équilibre en termes de période de sunrise, de développement, de noms de primes et des choses comme ça. Beaucoup plus que ce que le programme aujourd'hui ne fait. J'en ai bien peur. Merci.
Merci Stefano Cimataribos, je suis à nouveau participant. C'est ma première réunion ICANN. Je veux marquer mon accord avec un préopinant qui a indiqué que les des demandes avec des frais moindres pour d'autres langues. Alors je travaille pour une firme de consultance basée en Italie et qui travaille dans le domaine des fleurs coupées fraîches, vente au détail et franchise de gros. Et j'ai eu des contacts avec mes collègues russes à Saint-Pétersbourg. Et très souvent, ils rencontraient des obstacles avec certains caractères. J'espère que quelqu'un va proposer un nouveau TLD comme point flowers. Mais j'ai peur que les demandeurs d'un domaine point flower ne vont pas dépenser 300 000 dollars pour un nom de domaine en cyrillique dans le dot flower. Je vous invite donc à diminuer les coûts pour les noms en caractère non latin. Enfin, mon entreprise ne veut pas un domaine de haut niveau par pays comme .eu ou .fr parce qu'ils ne veulent pas ou .ru ne veut pas apparaître comme une entreprise exclusivement russe. Merci Nigel, merci Peter. Très brièvement, je marque mon accord avec ce que Bertrand de la Chapelle a dit. Une des choses importantes ici, c'est que l'entrée dans la racine de deuxième domaine n'est qu'une étiquette. C'est l'expression de contenu sémantique. Les demandeurs désavantagés viennent de toute l'Europe et de tout le monde, des communautés linguistiques et autres. Si, par exemple, une entreprise veut un TLD qui promeut le patois, mais il ne serait jamais capable de le faire. Que l'on parle d'argent, que l'on parle d'obstacles à l'entrée, obstacles non financiers à l'accès, la barre est placée beaucoup trop haut et nous devons trouver les moyens de changer cela. Sinon, vous empêchez les gens d'exercer le droit à la liberté d'expression et ce n'est pas une idée exclusivement européenne, selon moi. Merci. Avery Doria. À titre personnel, même si je suis coprésidente du groupe qui travaille sur l'identification des moyens pour permettre aux demandeurs désavantagés de faire une demande. J'apprécie le commentaire souvent exprimé qui consiste à dire pourquoi ne peuvent-ils pas attendre un deuxième tour? Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'un deuxième tour peut-être ne verra pas le jour avant que je ne décède. Mais pourquoi devrait-il attendre? Pourquoi devrait-il attendre? C'est ma question. Merci. Avery, ce n'est pas la question de savoir pourquoi il devrait attendre. La question est de savoir combien coûte l'attente. Constantine de Dot Music. J'ai beaucoup apprécié les commentaires de Bertrand. On envisage, nous aussi, de faire des IDN. On est à but non lucratif et on ferait ceci pour la communauté musicale. Nous examinons le budget. Si on veut faire 7 IDN avec un demandeur, une entreprise, une communauté et on va choisir un registraire, un fournisseur de services. Et ensuite, on doit payer 185 000 dollars multiplié par 7, disons. Mais c'est un budget d'1,5 million de dollars. Juste pour aller à l'ICANN. Alors que la seule chose qui doit être visible, c'est la validation de l'IDN qui est techniquement viable et mettre en place la racine. Je ne vois pas pourquoi on devrait perdre le temps des évaluateurs qui doivent vérifier les informations d'une même personne 8 fois parce qu'il y a 8 demandes, alors que la seule question, c'est la chaîne de caractères. C'est une question dont l'ICANN devrait se saisir. Ça concerne les demandeurs. Et on n'a pas autant de représentation qu'on devrait avoir. On parle de marques, qu'est-ce qui se passe pour les uns, pour les autres. Mais qu'en est-il de notre sort? Nous, on aimerait que l'ICANN nous regarde et se dise, nous, on ne veut pas voler ces gens-là, on veut faire ce qui est le mieux pour tous. Et si les gens n'ont pas suffisamment d'argent pour payer 1,5 million de dollars pour les IDN, comment est-ce que ceci peut être réalisé dans le cadre actuel? Les chiffres ne collent pas. Merci. Kurt, je crois qu'on a déjà entendu ceci plusieurs fois. Et je crois qu'on a trouvé que c'était une bonne idée, Kurt. Est-ce qu'il y a une règle empêchant le regroupement? Il devrait y avoir effectivement une baisse du prix. Vous n'avez pas à vérifier les mêmes informations 6 fois pour la même chose. Oui, vous avez raison. On a examiné ceci sous plusieurs angles et nous avons créé un modèle indiquant combien, quel est le coût de traitement des nouvelles demandes GTLD. On a agrégé ceci avec les revenus et les coûts et pour aboutir à une somme de 0. On ne sait pas combien de demandes vont être présentées ou qui ou quelles choses vont être regroupées, mais au premier tour, on va tenter de fournir une baisse du prix. On pourra avoir des transferts de créneaux, des combinaisons d'entreprises qui se regroupent pour obtenir une baisse des frais. Et c'est un jeu à somme nulle. Et les montants financiers impliqués triplent le budget de l'ICANN. Ram Raj et Kevin et Doug, on continuera à en discuter. Mais aujourd'hui, je crois que la question ici, c'est l'incertitude. Et en combinant des modèles et en les rendant plus complexes, de combien cette incertitude va s'accroître? Mais on peut continuer à analyser la chose, mais c'est un risque élevé et c'est très important pour l'ICANN. Merci. Alors, je vais tester la température. On n'a plus beaucoup de temps pour discuter du budget, mais je peux prolonger ce temps. Qui souhaite prendre la parole pour le prochain sujet, le programme GTLD? Beaucoup de gens. Je vais donc lancer un chrono d'une minute pour ce débat, les prises de parole sur cette question budgétaire. Izumi Aiz, membre de la communauté at large pour la région Asie-Pacifique. J'aimerais me faire l'écho de ce que Avril, le représentant du gouvernement français, ont indiqué, préparer quelque chose d'équilibré, de juste pour les demandes de GTLD. Alors, avant de poursuivre, ICANN a été créé. Je suis aussi membre du club 30 plus PIN. C'était de promouvoir la concurrence au plan mondial et l'idée des 185 000 dollars sans mentionner la documentation, essentiellement en anglais. Pour les régions Asie-Pacifique, on utilise l'anglais, donc ça ne pose pas de problème. Mais il faut tenir compte de la situation des différentes régions du monde. Merci, Sébastien.
utilisateurs français. Je suis à peu près persuadé qu'ils me rejoindront pour soutenir la position du gouvernement français qui vient d'être exprimée par son représentant au GAC. Et je suis venu parce que je suis très étonné d'une remarque que, Monsieur le Président, vous avez faite en disant que si on attend le deuxième round, ça sera moins cher. Ça veut dire qu'on donne une prime à ceux qui ont plus d'argent aujourd'hui, alors que ce qu'on a besoin, c'est d'un système qui soit le plus ouvert, mais en même temps qui permette aux utilisateurs de pouvoir s'y retrouver. Merci.
Thanks very much. And last.
Merci beaucoup. Dernière intervention sur le budget. Merci beaucoup, Alex Kakourou, groupe Jazz, qui discute du soutien aux demandeurs défavorisés pour les nouveaux GTLD. Attendre un deuxième tour, si celui-ci se produit, eh bien, c'est mettre au banc les régions désavantagées. Parce que si deuxième tour il y a, tous les noms auront été pris par ceux qui ont beaucoup d'argent, les marques, et ils auront enregistré nos noms de domaine et nous serons exclus. Voilà. Il est urgent que ce soit qu'on soit inclus dans le tour accéléré et la formule doit être affinée. Passons maintenant au programme GTLD. Alors, la période pour commentaires publics est maintenant ouverte. Bon, passons directement au débat. Des commentaires sur le guide 4. Ron, merci, Monsieur le Président. Bonjour. J'espère pouvoir lire mes notes. Alors, ça fait maintenant 10 ans que je prends le micro aux réunions ICANN pour dire un certain nombre de choses. Alors, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. ICANN est un microcosme qui reflète le monde. On parle différentes langues, on a différentes cultures. Certains sont des juristes, des avocats, des techniciens, des idéalistes, des obstructionnistes. Mais nous avons une chose en commun. Nous avons des intérêts au fonctionnement d'Internet. Mais certains deviennent de plus en plus frustrés. Non pas parce que le nouveau processus TLD avance plus lentement que ce que l'on espérait, mais plutôt parce qu'il y a trop peu de gens dans la communauté qui placent l'ICANN au premier plan. Le groupe de travail sur l'intégration verticale a rencontré des difficultés à obtenir un consensus après des centaines d'heures passées à échanger sur la liste. Et nous avons été éprouvés. Mais il y a effectivement nécessité de dégager un consensus. Il est malheureux que le manque de confiance et parfois le manque de respect ou même absence d'autorité de la part du directoire ou du personnel fait que ces questions remettent en péril tout ce que nous faisons. Une autre personne ou autre entité ayant des intérêts totalement opposés aux nôtres, eh bien nous pensons parfois que certains cherchent à tirer avantage de quelque chose que nous ne connaissons pas très bien, ou cela peut être dommageable et injuste. L'ICANN peut faire en sorte que les choses soient respectées, mais ceci n'a pas acquis la vitesse de croisière que l'on voulait. On a quelque chose d'extraordinaire pour pouvoir travailler, jouer dans cet environnement et avec des gens extraordinaires qui sont engagés, mais on en abuse. On en abuse avec un groupe de différentes parties prenantes et on met en péril l'excellence d'ICANN. J'ai été frappée par le nombre d'immeubles construits il y a plusieurs siècles et on voit que leurs structures sont toujours aussi fortes. Alors on aimerait que dans longtemps on puisse se retourner et dire voilà, on a mis en place des structures solides. Et j'aimerais que les évaluations de la communauté soient davantage mieux repris dans le guide pour une évaluation qui ne soit pas subjective et permettre à chacun d'occuper sa place sur l'Internet pour le bien de tous. et au lieu de faire primer les intérêts personnels. Je suis frustrée par le fait que certains de la communauté ou du personnel estiment que les applicants, les demandeurs peuvent faire une demande pour la communauté sans avoir à payer 185 000 dollars. Pour chaque équivalent IDN de leur, pour la chaîne de caractère de leur choix, sans qu'il y ait une traduction. Et nous devons continuer à construire cette institution qu'est l'ICANN. Et ma requête est de demander au CEO qu'il tienne parole et qu'il consacre les ressources nécessaires pour s'assurer que le département de la conformité a le personnel et les ressources nécessaires pour faire face aux défis qui sont devant nous. Merci, votre temps est écoulé. Il y en a encore ? Oui, une phrase rapidement. Nous avons demandé une différenciation du marché. Il y a ce nouveau rapport et nous devons nous assurer que les 10, 15, 100 000 prochaines années, nous avons un marché libre, libre de chaos et on doit y réfléchir sérieusement. Merci beaucoup. Voilà, j'ai exprimé ma frustration, mais il faut travailler plus étroitement. Je vais modifier les règles de fonctionnement. Si on continue à donner 3 minutes de parole à chacun, les gens qui sont dans la file vont attendre 45 minutes. Donc, restez à vos postes. Et nous allons prendre vos noms, les écrire sur une liste en papier afin que vous puissiez vous asseoir pendant que vous attendez. Est-ce qu'on peut faire deux listes de demandes de parole à gauche et à droite? Oui, quelqu'un va venir. Je pense que c'est John qui nous a dit ça. On va diminuer le temps de parole à 2 minutes pour faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. Adrian, 2 minutes. Vous relevez le défi? Non, je ne vais pas aller rapidement pour le procès-verbaliste. Je viens de Registry International. Vous le savez, mon entreprise a fait une promotion pour des T-shirts avec TLD inscrits dessus. Et beaucoup de gens en portent. On en a écoulé 600. Bon, ça va finir par pour laver les voitures, mais peu importe. Il y a des données importantes que l'on a eues avec cet exercice. Il n'y a pas de violation de marque. Hein. On n'a pas dû invoquer la procédure de fermeture immédiate. Et on aurait dû absolument arracher le T-shirt de la personne pour s'assurer que jamais plus elle ne le porterait. On a eu des questions de moralité publique. Nous n'en avons pas eu. Nous n'avons pas remis en question l'ordre public ou porté atteinte. Et les gens pourraient inscrire des vilaines choses sur les T-shirts. Personne ne l'a fait. On a une objection. Mais l'objet de l'objection était enivrant, donc on aurait pu être ivre. Personne ne s'est plaint, sauf quand on est parti. Nous avons une plainte de la jeune fille qui fait le T-shirt, qui n'a pas compris que c'était tout à fait légal à Bruxelles. On a une séparation verticale tout à fait claire. On n'a pas fabriqué les T-shirts, mais on les a distribués et personne ne s'en est trouvé plus mal. Alors on a des données scientifiques. Les noms qui ont été enregistrés, ceci va faire l'objet d'un prix à négocier. Bon, sérieusement, on a démontré ainsi que nos communautés sont tout à fait excitées avec les nouveaux GTLD, tout à fait enthousiastes et très intéressées. Merci beaucoup.
Adrian, thank you for that.
Merci Adrian. Bon, on avait 200, 300 000 dollars prévus pour une étude, mais vous l'avez faite pour nous, c'est très bien. Donc, monsieur, vous avez la parole.
Merci, cher monsieur le président. Yasron Morsi, j'ai été à Paris et au Caire pour les réunions ICANN. Et on nous a assuré que les TLD pour l'arabe seraient lancés au même temps que les CCTLD en arabe. Ce n'est pas le cas. J'ai une entreprise dans le monde arabophone et je dois insister sur l'importance pour nous, en tant que petite et moyenne entreprise dans le monde arabe, d'être capable d'enregistrer et d'assurer un nom de domaine .com ou .net. Je dois savoir si le directoire remplira sa promesse pour les GTLD en arabe. Merci.
Thank you. We'll come back to you. There's a complicated question about.
Il y a une réponse. Je veux m'assurer qu'on ne va pas se tromper en vous informant. Donc, on poursuit. Dirk Krishnowski, fondateur de Dot Berlin. Je me prononce également au sujet d'initiatives comme Point Bavaria, Point Hambourg, qui sont en ligne depuis 2006. Alors, le calendrier tout d'abord. On a perdu de vue le calendrier lors de la réunion ICANN à Séoul et on n'en a plus jamais reparlé. Alors j'espérais qu'à cette réunion, on redécouvrirait ce calendrier. Donc ma première question, quand est-ce qu'on verra un calendrier pour le nouveau programme TLD? Et je me souviens de ceux qui ont travaillé à ce processus. On est à 9 mois de l'ouverture de la fenêtre d'opportunité pour faire des demandes. Donc il y a déjà une certaine impatience ou expectative. On a entendu des commentaires et il y a une évolution depuis la réunion de Nairobi. Nous pensons que beaucoup d'éléments que l'on considérait comme devant faire partie de Now seraient inclus dans le guide. Et on pensait que l'on devait prendre en compte les préoccupations et que la gestion des TLD géographiques serait fondée sur les préoccupations de la communauté, à l'instar des CCTLD et le RFC 1591. Nous avons une forte communauté à Berlin, autour de dot.berlin, et on a fait beaucoup de sensibilisation pour que toutes les parties prenantes et les acteurs concernés soient impliqués. Nous avons fait ceci de bonne foi et nous nous en sommes tenus au modèle ICANN et ça devrait être repris dans le guide. Enfin, dernière question, le sommet où l'on pourrait régler tous nos problèmes. Qu'en est-il du sommet ICANN où l'on pourrait voir peut-être une avant-dernière version du guide définitif?
Je t'ai envoyé des bons mots.
Oh, super. Merci. Alors, j'ai Scott Seat sur la liste, Ramzour, Peter Vassal, King Stubbs, Dimaidi. Je suis désolée pour la prononciation. Zuma Zhu, Mikey O'Connor et Thomas Schreider. Donc, vous avez un droit à la parole si j'ai mentionné votre nom dans l'ordre. Sinon, mentionnez-le à Tina. Rob, puis-je intervenir? Une question à distance a été posée. Monsieur Kirikos aimerait être ajouté sur la liste. Rob, vous serez la personne suivante. Donc, à main droite, Rémi Caron, Khaled Fatal, Philippe Cohen, Zahid Ghanai, Constantine Roussos, Zelf, Jeff Newman, excusez-moi. Je n'arrive pas à lire le nom, Rabbi Adja, excusez-moi. Andrew Vancouver, Paul Foody, Susan Reynolds, Yarokatsu Shugi et Mike Plage. Je suis désolée de ma prononciation. Si vous avez cru entendre votre nom, vous avez un droit de parole au micro à ma gauche dans la salle. Donc, si vous pouvez rester dans la file, mais sinon vous pouvez attendre votre tour assis. J'aimerais des nouveaux intervenants à la liste dont le nom n'a pas été noté. La longueur de la file d'attente est une indication de comment gérer les choses pour moi. Dirk, le calendrier et le sommet. Je vais demander à Kurt de répondre. Kurt? Peut-être vous voulez venir à la table. Je vais demander votre aide pour plusieurs questions. Le calendrier. Est-ce que c'est la dernière version? Eh bien, ça dépend des commentaires au formulaire. Enfin, ça dépend des commentaires dans les formulaires et le nombre de changements qu'il faudra apporter d'ici la prochaine version. Eh bien, s'il y en a peu, les gens sont satisfaits, alors à ce moment-là, on en fera la prochaine version du guide. Elle sera présentée pour approbation au directoire au mois de décembre, mais ça dépend des commentaires de la communauté. Voilà. Ah, et le sommet. Je crois que John ne l'a pas évoqué, mais on en a parlé au cours d'un échange lors d'une autre réunion hier, et la réponse, nous pensons que c'est une excellente idée. Ce que nous voulons faire, c'est élaborer un projet d'ordre du jour, voir si c'est viable. Ces points émergeront des commentaires au guide que l'on recevra. Et nous pensons que c'est une bonne idée et on va travailler un ordre du jour. Merci, Rob. Les questions à distance. Merci, Peter. George Kirikos a demandé à intervenir. Puisque ma question n'était pas pertinente durant la situation point 3X, j'aimerais maintenant réintervenir ici. Il y a quelques jours, le document de Tim Lee Berners a parlé de l'introduction de nouveaux TLD, y compris les points 3X. Je ne vais pas citer ce qu'il a dit. Pourquoi est-ce que l'ICANN pense qu'il est juste et que Tim Lee Berners n'a pas raison de donner une grosse partie au groupe privé? Et quel est l'impact économique en millions de dollars pour les nouveaux TLD en termes de coûts et d'avantages? En outre, quand on est opposé à de nouveaux TLD, on fait une proposition pour des TLD ascended. Et ce serait bien supérieur au guide V4 qui exigerait de nouveaux propriétaires de TLD qu'ils obtiennent des assouplissements pour la propriété des .com correspondants .net, .org. Pourquoi est-ce que l'ICANN ne peut pas changer radicalement d'approche plutôt que de continuer avec la version 4 du guide qui a suscité l'opposition dans la communauté et qui n'a pas fait l'objet d'un consensus? Et je vais passer à ma deuxième question dans les temps. Beaucoup de temps est consacré à l'intégration verticale. Vous vous souvenez, VeriSign a fait sa propre solution mais a dû accorder un traitement sur pied d'égalité à tous les registraires et les prix ont été maintenus. L'intégration verticale, pour nous, est obsolète à partir du moment où les prix sont plafonnés, comme c'est le cas pour les .com. Le marché ne peut pas fonctionner tant qu'on plafonne les frais. Et c'était le cas tant que VeriSign était propriétaire de DNSI. Est-ce qu'on va finalement introduire, enfin on maintient des plafonds pour protéger les consommateurs rendant la question de l'intégration verticale complètement obsolète? La réponse rapide, George, c'est biaisé et vous cherchez quelque part un peu à susciter un effet de provocation. Alors quand vous parlez du conflit avec le document de Tim Berners-Lee. La réalité, c'est que la politique, s'agissant des nouveaux TLD, provient du GNSO. Et c'est le modèle là des parties prenantes multiples qui prévaut. Alors, vous pouvez soulever cette question au GNSO et si la communauté soutient le développement d'une politique complètement différente, vous pouvez le faire. Et pour la dernière question, il y aura quelqu'un d'autre pour y répondre. On en revient à cette côté de la salle. Scott Seas. Non. Oui. Votre droite, ma gauche. Est-ce que il est possible de parler un peu plus lentement pour le bénéfice des interprètes et d'une communication claire? ScottSeas.gay. Bonjour, membre du directoire. C'est ma deuxième réunion. J'aimerais revenir sur les points de moralité et d'ordre public. J'encourage l'ICANN à rester vigilante. s'assurer que ces débats ne deviennent pas des instruments qui permettent la discrimination à l'égard de la communauté gay que l'on connaît que trop. J'aimerais que l'ICANN réfléchisse à sa propre politique pour s'assurer qu'elle est ouverte à, pour apporter un soutien à la communauté gay et à toute personne, quelle que soit son orientation. Rennie Caron. Rémi Caron, j'ai une petite entreprise aux Pays-Bas. C'est ma première réunion ICANN. Alors, j'ai développé des logiciels qui ont permis à ma petite entreprise d'ouvrir des services dans le monde entier. C'est une grande opportunité parce que sinon, une petite entreprise comme la mienne n'existerait tout simplement pas. Bien que l'avenir soit radieux, j'ai des préoccupations. Les règlements en matière de confidentialité et de protection des données, les mécanismes en place dans les différents pays et États en Europe. Et il y a une autre chose qui est une grande préoccupation pour moi, au-delà de ça. On aurait des centaines et des centaines de nouveaux TLD qui seraient déployés de par le monde. Et puisque les enjeux sont plus importants pour les petites entreprises, mais aussi pour les grosses entreprises, pour s'assurer que les DNS sont fiables et que la redirection de l'information se fait toujours dans la bonne direction, j'aimerais demander à la communauté ICANN de sélectionner des gestionnaires pour les TLD avec des normes d'exigence très élevées. Sans cela, toutes ces initiatives et ces excellents TLD s'avéreront un fardeau. Un fardeau au lieu d'être un plus pour la communauté. Merci. Ram Zhao. Merci, Monsieur le Président.
From China, I'm...
Je suis Ram Zhao. Je viens de Chine. Je parle au nom du nom d'organisation chinoise, d'une CONEX. En abrégé. Nous avons obtenu énormément d'informations au cours de cette réunion concernant les efforts de ICANN avec toutes ses parties prenantes. Et je suis ravie de voir que nous avons encore fait un pas en avant vers l'ouverture des demandes pour les nouveaux GTLD. Mais ce n'est pas encore suffisamment transparent. Parce que le dernier délai pour les demandes n'a pas encore fait l'objet d'une décision. L'ICANN essaye de rendre transparentes toutes ces politiques, mais je pense qu'il faut encore faire des efforts. Au fur et à mesure que le guide destiné aux demandeurs s'épaissit. Mais il faut dire aussi que les différences entre les parties prenantes s'accroissent. Donc nous recommandons que ICANN ajoute deux catégories pour correspondre à différentes catégories aux besoins communs de différentes communautés. L'une pour l'utilisation commerciale et une autre pour l'utilisation non commerciale. Et nous demandons aussi qu'elle développe des politiques publiques et des procédures d'évaluation. Nous pensons que cela va simplifier la gestion des GTLD et accélérer le rythme d'évaluation de certains des nouveaux TLD. En réalité, le GNSO se regroupe aussi en participants commerciaux et non commerciaux. Vous savez, à deux endroits déjà, à Bruxelles et ailleurs, certains membres du GAC ont réitéré l'importance de la classification des GTLD. Nous avons appris aussi que le GAC et certaines organisations ont déjà réalisé un travail préparatoire dans ces domaines. Nous apprécions vraiment tous les efforts que ICANN a réalisés et nous sommes prêts à apporter notre contribution pour aider ICANN à atteindre cet objectif à ce niveau-là. Merci. Merci beaucoup. Revenons à Khaled Fatal. Merci, Monsieur le Président. Je suis Khaled Fatal. Je suis le président, le directeur général d'un groupe Internet multilingue. J'ai une déclaration préparée pour vous. Vous la voici. Ceux d'entre nous qui participent au processus de ICANN depuis aussi longtemps que moi sont habitués aux controverses de ICANN à tous les niveaux. Mais le dernier, c'est un porte-tort fait du tort aux ramifications internationales. La dernière version du guide pour les nouveaux GTLD que l'on appelle DAG 4, The Draft Applicant Guidebook 4, a fait c'est des centaines de pages. Les bons, les mauvais et les affreux aussi. Quelquefois, cependant, quelque chose de nouveau a apparu dans ce guide qui peut être considéré comme perturbateur. Il semble que ICANN se soit maintenant aventuré dans le domaine de la vérification du terrorisme, des contrôles de terrorisme. Dans la section 2.1 de ce guide, on dit, et je cite, « Des vérifications d'antécédents seront réalisées au niveau de l'entité, au niveau des deux entités et au niveau individu, au niveau de l'entité et au niveau des individus, donc pour les organisations et pour les individus, pour tout, que tous les demandeurs confirment leur éligibilité. Cette vérification d'antécédents peut inclure, mais ne sera pas limitée au domaine suivant. » Alors, on met une liste de 6 domaines, et il y en a un qui est le terrorisme. Fin de citation. Ce qui est alarmant, c'est que le DAG 4 ne contient aucune définition des normes sur lesquelles ces contrôles de risques de terrorisme seront réalisés. Pour que ICANN invoque le terme terrorisme de cette manière arbitraire, cela menace la capacité de l'ICANN d'assumer son mandat d'être le coordinateur mondial technique d'Internet. Cela met aussi en question sa légitimité en tant que fournisseur de services publics aux yeux de la communauté internationale si elle continue sur ce chemin. Mais ce qui est plus important encore, cela aliène une grande partie de la communauté internationale. En outre, cela soulève beaucoup de préoccupations quant à savoir si ICANN arrive vraiment à s'internationaliser. Donc, quelles sont les normes que ICANN pense adopter? La définition du Département d'État des États-Unis du terrorisme ou la résolution du terrorisme des États-Unis? Est-ce que les rédacteurs et les membres du directoire qui ont travaillé et qui ont évalué le DAG 4 ont réalisé les conséquences possibles? En outre, l'inclusion terroriste arbitraire comme bâton de mesure sans aucune loi ou norme internationale reconnue est erronée, est une erreur. Et nous pouvons être rentrés en conflit avec certains groupes arabes ou musulmans, en tout cas. Donnez-moi encore 20 secondes, s'il vous plaît. Donc moi, je vais vous produire une recommandation. Alors, quel terrorisme nous préoccupe? Le terrorisme d'État? Le cyberterrorisme? Alors, je vais rédiger une déclaration qui sera postée en ligne, mais pour conclure, j'ai cette recommandation. Soit le retrait du terrorisme comme domaine de contrôle ou de vérification des demandeurs dans le guide, ou ce terme peut être inclus uniquement si les bases de ces contrôles sont clairement définies à 100% sur base des juridictions locales et des juridictions internationales. Et je m'arrête ici pour le moment. Kurt, est-ce que tu peux faire une réponse rapide sur la nature des vérifications des contrôles qui peuvent être réalisés pour certifier les demandeurs? Merci, Khalid. Nous avons eu une discussion lors d'un forum antérieur et je pense que les points de Khalid sont excellents. Effectivement, nous avons inclus les vérifications des antécédents dans cette version du guide et les réponses à certaines suggestions de la communauté sur la manière d'atténuer des conduites malveillantes. Et le guide du demandeur que vous avez là a été élaboré après avoir reçu les demandes de firmes de sécurité qui font des vérifications d'informations. Donc, effectivement, le guide est trop long, mais je suis d'accord avec le fait que certains termes, et particulièrement celui-ci qui est particulièrement sensible, doit être enlevé ou alors doit être mieux défini, plus clairement défini. Je suis d'accord et j'accepte ce commentaire. Bonjour, je m'appelle Vassil Petif, je viens de Bulgarie et je représente une société qui s'appelle Telarik, une société qui marche bien, une société informatique qui marche bien. Nous travaillons dans le logiciel en Ukraine, en Russie, en Bulgarie. Et la raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que nous sommes très heureux que ICANN ait décidé d'ouvrir l'Internet aux pays qui ne parlent pas de langue latine. Cependant, je ne comprends pas pourquoi le domaine .com en cyrillique avec un K ne peut pas être accepté parce qu'il est trop similaire et son apparence est trop similaire à la version latine du .com. Alors, ce qui met en question le sérieux des tentatives de ICANN dans son soutien aux langues cyrilliques. Et qu'est-ce que nous faisons en tant que consommateurs en réalité pour nous aider pour vous aider à amener le .com, c'est-à-dire le nom de domaine le plus célèbre, .com, en cyrillique. Et ma seconde question est, si .com en cyrillique est accepté, est-ce que vous mettrez en place un mécanisme pour que les sociétés puissent avoir les dérivés cyrilliques de leurs URL en alphabet latin et pour qu'ils aient leur mot à dire lorsqu'ils les achèteront. Merci, moi je travaille au nom de l'Association commerciale Internet pour les développeurs de noms de domaine. Trois points très rapides sur lesquels nous allons approfondir à travers des commentaires écrits. Tout d'abord, nous espérons que les protections des marques commerciales incluses dans le GAD, la version 4, du DAG, sont restées telles qu'elles étaient. Elles sont le résultat d'un long processus quelque peu conflictuel auquel participaient les IRS, le STI, le GNSO, etc. Nous reconnaissons que personne n'est tout à fait satisfait, mais c'est la nature même de ce qui est un compromis. Ceci dit, reconnaissant que les détenteurs de droits ont des préoccupations légitimes par rapport au coût et au temps des UDRP, particulièrement par rapport aux 70% des cas de défaut, nous encouragerions l'ICANN à examiner cela sérieusement. Après 10 années d'existence de ce système de procédure de résolution de litige, il faudrait peut-être envisager une évaluation, une révision, une réforme de ce processus pour assurer une meilleure uniformité de l'administration et de la cohérence, pour donner à ICANN des outils de mise en œuvre, des outils d'application plus graduels, plus gradués, et pour assurer que le processus d'évaluation soit équilibré et pour qu'il prenne en considération les préoccupations des registrants et des plaignants. Finalement, en ce qui concerne les vérifications d'identité, nous demanderons davantage de clarifications par rapport au schéma de violation de la propriété intellectuelle, particulièrement parce que le manque actuel de cohérence et de prédictabilité de l'UDRP, à cause de ce manque de cohérence et de prédictabilité, par exemple, lorsqu'il y a 2 violations de l'UDRP dans une courte période sur un portefeuille de 20 noms de domaine, cela peut vouloir dire quelque chose de complètement différent que 2 violations sur une période de 10 ans pour un portefeuille de 20 000. Non, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez clôturer vos observations? Vous devez vous limiter à 2 minutes. Vous voyez l'horloge. Nous ne devrions pas avoir besoin de vous dire que votre temps de parole s'est terminé. C'est difficile de regarder mes notes et de regarder l'horloge en même temps. Nous voudrions des éclaircissements de ces dispositions concernant les vérifications et les contrôles d'information. Avant que je commence, je voudrais que tu saches que je dis cela au nom de Brian Clute et je vais présenter mes excuses aux interprètes pour mon discours très rapide. Et quelquefois, ça rend leur tâche difficile. La proposition du RAC, la proposition VI, donc ceux qui soutiennent ces propositions, représentent un échantillon représentatif des regroupements de ICANN, des utilisateurs, se concentrent sur l'impact des registrants comme la problématique essentielle que le directoire doit prendre en considération dans la résolution définitive qui mettra un terme aux discussions sur la politique d'intégration verticale, l'accès aux données de registre et la capacité de registre et registraire intégrés, d'identifier les noms à haute valeur, de les enlever du marché pour des ventes aux enchères ou pour un second marché. Tout cela pourrait produire des prix considérablement plus élevés pour les nouveaux registrants, pour les nouveaux TLD. Au cours de ces 10 dernières années, ICANN a établi des limites de propriété comme mécanisme pour permettre la distribution entre les registres et les registraires. Le mécanisme est extrêmement efficace pour éviter la discrimination de la part des registres à l'encontre des registraires, et cela a minimisé les incitants à la fraude. En conséquence, les registrants de ICANN en ont bénéficié. Certains ont proposé que l'intégration verticale ne soit pas permise et que la mise en œuvre et la conformité constituent des protections suffisantes pour éviter la tricherie et la fraude de la part des registrants. La complexité des des outils, avec potentiellement des centaines de nouveaux registres, selon les estimations de ICANN, signifie que nous allons avoir besoin d'un bureau qui va nous coûter très cher. Si ICANN veut avoir une logique dans ses règles, dans le nouveau round, elle doit mettre les intérêts des registrants au premier plan. Le cadre existant de séparation entre les registres et les registraires a supposé des avantages sous la forme de prix concurrentiels et de choix entre les TLD et les registraires. Un cadre dans le nouveau round des TLD qui permette une séparation cohérente entre les registres et les registraires permettrait de produire ces mêmes avantages avec, bien sûr, des avantages importants en termes de coûts. Excusez-moi, j'ai essayé de parler lentement. Zahid Jamil du Pakistan. Dans l'intérêt de transparence, je n'ai pas été éliminée par les contrôles d'information dans le domaine du terrorisme, même si je suis du Pakistan. Alors, un conseiller politique donc de l'époque avant Jésus-Christ des nouveaux TLD hier a posé des problèmes liés à des mécanismes de protection des droits ainsi que par rapport aux coûts économiques et aux défis auxquels ils sont confrontés dans la nécessité de protéger leurs clients des abus et de la fraude. J'aimerais bien souligner la réunion de Nairobi et dire que le centre d'échange des marques commerciales n'était pas un mécanisme de protection des droits. Cela signifie qu'il y a très peu ou pratiquement pas de nouveaux mécanismes de protection des droits pour les nouveaux TLD qui sont disponibles pour les détenteurs de TM et le prélancement. Cela laisse un vide dans cet espace, sans même mentionner le coût des enregistrements défensifs. Ce coût est reconnu dans l'analyse économique qui recommande plusieurs études, l'analyse et les résultats. Et ces analyses sont censées nous aider à constituer les nouvelles règles et les nouveaux processus concernant les GTLD. J'espère que cette analyse économique a eu lieu. Je voudrais qu'elle ait eu lieu beaucoup plus tôt dans la phase de mise en œuvre, mais je suis sûre maintenant que nous avons ces recommandations, que le directoire va assurer que ces études soient réalisées et qu'on refasse leur conception. Les règles et les processus doivent précéder et être inclus dans la nouvelle version du DAG. Dans la nouvelle mise à jour du GTLD, ça a été mentionné que si les commentaires entre une publication du DAG et une autre sont moins importants qu'auparavant, ça doit signifier que la nouvelle version doit avoir résolu ses préoccupations. Je remarque que ces commentaires n'ont pas mené à des changements depuis Nairobi aux propositions du personnel de RPM dans la version 4 du guide. Et étant donné cela, je voudrais vous avertir contre la vision selon laquelle, étant donné que vous avez peut-être moins de commentaires, que vous entendez moins de bruit aux réunions en ce qui concerne la confusion et la confiance des consommateurs au RPM, que nécessairement les problèmes n'existent plus. J'ai des propriétaires de marques et des groupes de consommateurs dont les problèmes n'ont pas été traités depuis Nairobi. J'espère que dans vos tentatives d'assurer une mise en œuvre efficace de la protection des droits telle que leur donne l'affirmation des engagements, j'espère que le directoire assurera la mise en œuvre de RPM qui permette aussi de résoudre les problèmes de pré-enregistrement et de réduire les coûts monétaires et économiques pour la communauté. C'est une tâche importante dans le lancement des nouveaux GTLD. Merci, Monsieur le Président. Je suis de Chine et je voudrais vous parler au nom de Konik. Je voudrais faire un commentaire sur la langue chinoise simplifiée et la langue chinoise traditionnelle. La Chine est un pays asiatique qui a plus de 5000 ans d'histoire. Et nous avons le chinois traditionnel et le chinois simplifié. Alors, pour le moment, il y a 1 milliard 300 millions de personnes qui utilisent le chinois simplifié et des dizaines de millions de personnes qui utilisent le chinois traditionnel aussi Hong Kong, Taïwan, Macao, etc. Et beaucoup de Chinois à l'étranger. Cependant, le chinois simplifié et le chinois traditionnel sont équivalents en termes de sens, même si leur forme écrite peut varier. La relation entre le chinois simplifié et le chinois traditionnel est similaire que la relation entre l'anglais en minuscule et l'anglais en majuscule. Le chinois simplifié et le chinois traditionnel sont inséparables. Ils sont intégrés pleinement dans la culture chinoise. L'utilisation simultanée du chinois simplifié et du chinois traditionnel est une véritable exigence de la communauté chinoise. Un monde, un Internet, tout le monde doit être connecté. Ce n'est pas seulement l'objectif de ICANN, mais c'est l'objectif de la communauté Internet dans son ensemble. L'utilisation des noms de domaines chinois inclut non seulement les personnes qui utilisent le chinois simplifié, mais aussi les personnes qui utilisent le chinois traditionnel. Alors, s'il n'y a que des noms de domaines en chinois simplifié, si seulement ces noms sont délégués alors que le chinois traditionnel est réservé ou vice-versa, ça signifie qu'alors que la porte est ouverte à certaines personnes, elle est fermée à d'autres. Alors, ICANN et tout, cette partie prenante, ont déjà fait beaucoup d'efforts dans ce domaine, mais il y a toujours du chemin à parcourir. Nous voulons que les parties prenantes fassent un effort conjoint pour optimiser la politique de gestion et pour qu'on tente tous ensemble de construire un Internet ouvert au monde. C'est un sujet qui nous a préoccupé considérablement, qui nous a occupé considérablement. Je ne sais pas si Graham ou Harold veulent apporter une réponse très rapide. Effectivement, c'est un domaine qui crée des problèmes. C'est un secteur, un champ, disons, qui crée des problèmes. Et nous essayons de trouver une manière d'avancer qui permet de répondre à cette question. Et qui ne nous coince pas dans le piège de tenter à répondre à toutes les questions possibles dans tous les contextes possibles. Parce que nous avons étudié ce problème et en ce faisant, cela nous semblait être impossible. Alors, ce que nous attendons avec le plus d'impatience, c'est en fait le rapport de CNNIC qu'ils nous ont promis sur la manière dont les choses fonctionnaient après qu'ils aient obtenu leurs deux variantes du .China, du domaine .China. Je pense que cela pourrait vraiment nous être d'une grande aide dans la mesure où ça va informer le débat sur la manière dont ça va fonctionner avec des données réelles. Alors moi, je voudrais parler d'innovation et le concept de communauté dans le nouveau programme, dans le programme des nouveaux GTLD, pardon. Alors, on appelle les nouveaux demandeurs les registres. Je ne suis pas d'accord avec cette formulation. Nous ne sommes pas les registres. Nous sommes les propriétaires des TLD, les opérateurs ou les managers, les gestionnaires des TLD. Alors, nous voyons l'intégration verticale de la manière suivante. Par exemple, si je fais une demande moi-même, et je ne choisis pas Afilias, Neustar, VeriSign ou peu importe qui sont les gros pontes. Et si ma demande est rejetée, je regarde de l'autre côté. 300 nouveaux GTLD sortent, ils veulent un espace de stockage. Alors qui a de l'espace de stockage? Si vous regardez les GoDaddies du monde, ce qui se passe ici, c'est que tout le monde utilise une séparation verticale simplement pour que nous payions de l'argent à d'autres parties. En d'autres termes, je paye de l'argent à ICANN, je paye de l'argent à ce que j'utilise comme opérateur de registre et d'autre part, je paye les GoDaddy de ce monde ou quiconque a cet espace de stockage. Et je vous garantis que si vous avez 300 nouveaux GTLD, il va y avoir une sacrée compétition, concurrence pour l'espace de stockage où ce sont les grands registraires qui vont en bénéficier. Donc dans le Dot Music, quelqu'un pense à la musique, on pense à un foyer pour découvrir, pour pouvoir chercher de la musique et des produits et des services et pour atteindre les objectifs des musiciens. Alors comment arrivons-nous à cela avec une séparation verticale? Ce n'est pas possible. Je voudrais bien entendre d'autres commentaires là-dessus. Autre chose que je veux dire, c'est la communauté. Quelle est la définition de la communauté? La manière dont je vois ça, c'est que nous sommes là, nous avons plus de 4,2 millions de personnes sur mon espace, nous avons cumulé plus d'1,3 million de signatures et nous n'avons rien à montrer dans le DAG. Donc nous voudrions quelque chose qui représente nos efforts sur le marché pour commercialiser avant tout Dot Music. Ensuite, ICANN, parce que dans chaque déclaration que nous faisons, nous commercialisons ce que vous faites et nous voudrions que dans le DAG, il y ait une section qui dise si vous n'êtes pas ceci, si vous n'avez pas fait ceci, vous n'êtes pas arrivé à la sensibilisation de la communauté. Voilà, je termine ici mes commentaires. Merci beaucoup. Bon. Je vais devoir clôturer cette série. D'interventions. Je le dis à ceux qui sont toujours dans la file, parce que si nous n'arrêtons pas, nous allons être ici jusqu'à 19h. Les commentaires sur l'intégration verticale à ce stade ne nous aident pas beaucoup. N'aident pas beaucoup le directoire. Il y a un groupe de travail actif qui travaille sur ce sujet. Nous voulons savoir ce que le groupe de travail fait. Simplement répéter les positions qui sont en cours ne nous aide pas. Nous allons devoir les laisser de côté jusqu'à ce que nous ayons de nouvelles du groupe de travail. Le groupe de travail aura peut-être envie de nous présenter un rapport, une opinion de la majorité. Je n'essaye pas de clôturer l'audition. Je ne veux pas qu'on cesse d'exprimer des opinions divergentes, mais l'histoire d'intégration verticale ne nous est pas très utile. Je crois que ce qui se passe maintenant, live, c'est que l'Italie se fait battre par la Slovaquie à 2-0, à la Nouvelle-Zélande 0-0. Alors, ce qui est beau dans la Coupe du Monde, c'est que c'est un terrain de jeu où tout le monde est sur pied d'égalité. Et donc, même des petits pays, des petites personnes peuvent bouleverser, peuvent perturber complètement des gens très importants comme la France et l'Italie. Alors, par rapport à l'intégration verticale, mais la conception actuelle du DAG avec soi-disant 185 000 demandes et d'autres documentations, comme je l'ai dit, la plus grande partie de ces documentations doit être préparée en anglais, qui n'est pas une langue de travail. Ça coûte de l'argent pour les joueurs non anglophones comme nous au Japon. Donc nous travaillons pour aider les CCTLD pour qu'ils envisagent de réagir pas seulement faisant des demandes pour les TLD, mais quelquefois ils doivent présenter des objections. Et avec la séparation actuelle, on peut favoriser les gros. La séparation actuelle peut de nouveau favoriser les gros. Je pense que vous parlez de nouveau de l'intégration verticale. C'est très clair, j'ai bien dit que les commentaires sur l'intégration verticale ne nous aident absolument pas. On gaspille un temps vraiment précieux alors que des membres de la communauté pourraient faire des présentations sur des choses vraiment importantes. Je suis désolée, j'aurais souhaité entendre ce commentaire avant que j'ai préparé mon intervention. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Jeff Newman. Je communique un message de la part du groupe des parties prenantes des registres. Alors, je voulais saisir cette occasion pour répéter un message que j'ai communiqué au directoire lors du déjeuner des registres jeudi. Même si cela a pris longtemps pour arriver à ce stade, je voulais exprimer ma gratitude au personnel de l'ICANN, particulièrement au bureau des conseillers généraux de l'ICANN, au bureau juridique de l'ICANN, qui a mis sur pied un groupe de travail pour se pencher sur la problématique de l'amendement des accords de registre et de la politique de résolution de litiges. Alors, nous pensons que ce groupe de travail est extrêmement très bien travaillé et sert de modèle pour le travail futur qui doit être réalisé, le travail de la même nature, Mon second commentaire est lié à une série de déclarations qui ont été faites par l'Organisation sur la propriété intellectuelle cette semaine. Alors, ne vous laissez pas tromper par ces commentaires du processus de résolution de litiges post-délégation. L'OMPI a proposé des amendements au PPRDP par rapport à l'aveuglement volontaire et ces commentaires sont contraires aux lois bien établies des juridictions qui ont abordé cette problématique, y compris les États-Unis et même ici en Belgique, mais aussi comme extension du droit international. Comme nous l'avons entendu de la part du GAG sur la question de la moralité de l'ordre public, ce n'est pas le boulot de l'ICANN de créer un nouveau droit international. Le personnel de l'ICANN a reconnu cela, a mis cela dans la dernière version du guide en ce qui concerne les processus de résolution de litiges post-délégation et cela ne doit pas changer. Si j'avais eu la possibilité, j'aurais fait ces déclarations devant le GAC, mais malheureusement, ils ne veulent pas que l'on contredise l'OMPI après que l'OMPI ait fait sa présentation. Merci. Merci beaucoup, Jeff, pour ces aimables remarques à notre personnel qui a travaillé tellement dur. C'est vraiment, cela les motive vraiment d'entendre un feedback positif. Ici, c'est Mikey O'Connor et je ne vais pas parler de l'intégration verticale pour la première fois en 4 jours. Je voudrais simplement me faire l'écho des commentaires de Jeff. Je suis un grand consommateur du soutien, des ressources de soutien du personnel de l'ICANN parce que je participe simultanément à 7 groupes de travail et ils sont extrêmement surprenants. Mon commentaire porte sur un autre groupe, le HSTLD, le groupe consultatif HSTLD. Malheureusement, je dois vous communiquer des mauvaises nouvelles et je n'en suis pas du tout content. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous encouragerai à savoir, donc je voudrais vous communiquer que nous ne sommes pas d'accord. Il n'y a pas beaucoup de consensus sur ce rapport. Il y a beaucoup de travail encore à réaliser et nous n'y arriverons pas à temps. Dans notre version, Nous avons enlevé le programme HSTLD du programme sur les nouveaux GTLD. Lorsqu'on pense aux utilisations malveillantes comme un des problèmes fondamentaux, et il y a un point là-dessus pour les HSTLD, admettez qu'il n'y a pas de là, il n'y a pas d'endroit là, et gardez cela à l'œil. Merci, Mikey. Ira Iraki. Bonjour. Je vous parle. Je m'appelle Iraki de .eus. Donc, nous allons demander un nom de domaine .eus pour promouvoir la langue basque sur Internet et la culture basque sur Internet. Notre projet sans but lucratif est né fin 2006 et l'association a été créée en 2008. Alors, nous avons participé à la première réunion de Paris. En octobre, ICANN a publié sa première version du guide du demandeur. Nous pensions que c'était l'unique version que nous allons devoir étudier, mais ce n'était pas la seule. Quelques jours plus tard, nous avons participé à la réunion au Caire. Et le processus a été retardé. La version numéro 2 a été publiée en mars 2009, donc nous avons décidé d'aller au Mexique. Encore de l'argent, du temps, des efforts, des retards. Et nous nous sommes dit la même chose que c'était la dernière version, mais nous nous trompions encore une fois. La réunion suivante a eu lieu à Sydney. Et là, il n'y a pas eu de grande évolution dans le processus du GTLD. Et il n'y avait pas non plus de nouvelle version. Nous avons décidé d'économiser nos efforts, notre argent et notre temps pour la prochaine réunion. En octobre 2009, nous avons lu la version numéro 3 lors de la réunion de Séoul. Nous l'avons comprise et nous préférerions avoir un délai réaliste, mais beaucoup plus que l'argent. S'il n'y a pas de délai, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'évolution. Nous avons choisi de ne pas aller à Nairobi. Maintenant, nous avons la possibilité d'analyser la version préliminaire numéro 4 et nous sommes à Bruxelles. Alors, nous voudrions... Vous nous faites penser, comme il n'y a pas de délai clair, vous nous faites penser que nous allons peut-être devoir discuter et étudier une cinquième version. Pour terminer, nous voudrions que vous teniez compte du fait que les projets sans but lucratif, sociaux et les TLD linguistiques et culturels font partie de la communauté et nous voudrions aussi participer à ICANN et nous remercions si vous pouviez nous donner un délai clair dès que vous pourrez. C'est la seule manière par laquelle nous pouvons nous organiser. Merci beaucoup pour maintenir notre projet en vie.
Merci. Thomas, je représente la Suisse au GAC. Nous sommes très heureux de voir que ICANN a promis de travailler pour le bénéfice de tous de par le monde et nous sommes impatients de voir comment l'ICANN va tenir sa promesse. Le processus GTLD est un excellent exemple pour l'ICANN de montrer qu'elle est à la hauteur de ses promesses et agit pour le bénéfice de tous. C'est l'occasion de convaincre d'autres gouvernements qui ne sont pas encore convaincus que l'ICANN agit dans l'intérêt public mondial, qu'elle le fait. Nous sommes un petit pays avec des contribuables riches. Je ne participe pas seulement à l'ICANN, mais également à d'autres forums comme l'UNESCO, les Nations Unies et d'autres. Nous croyons au modèle ICANN et nous serions heureux de voir que l'ICANN soit capable de tenir ses promesses et continuer à participer au GAC. Et nous invitons l'ICANN à utiliser le processus GTLD comme une opportunité de le faire. Qu'est-ce que signifie l'intérêt public? Eh bien, Bertrand et d'autres l'ont dit, c'est une répartition équitable des avantages économiques et sociaux au plan mondial. Une remarque plus concrète maintenant, la version 4 du guide. On est heureux de voir qu'il y a des évolutions pour les distinctions entre GTLD, GTLD géographique, et ça c'est un pas dans la bonne direction. Et nous encourageons l'ICANN lors de la prochaine version de continuer cette différenciation plus avant. Pour ce qui est des exigences techniques et de sécurité, nous avons une population de 30 000 personnes en Suisse qui parle une langue, le romanche. Et ils aimeraient bien aussi un .cat pour eux. Mais avec les exigences actuelles, personne ne serait en mesure de financer cela. Et se contenterait d'une... d'horaire de 9 à 5, même si ce n'est pas 24 heures sur 24. Même chose pour les bases juridiques. Des bases juridiques locales seraient plus adéquates. L'intégration verticale est aussi
pertinente ici. Donc on aimerait que la différenciation soit poussée plus avant pour des régimes qui sont conformes aux besoins des communautés qui utilisent les TLD, parce que nous sommes impatients d'avoir ces TLD dès que possible. Merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir d'avoir des représentants du GAC prendre la parole au forum public. Anthony, j'aimerais faire un commentaire plus général. J'apprécie ce que le personnel et le directoire fait pour limiter ces plaidoyers, comme on les a entendus, de chaque groupement d'intérêt et bien d'autres groupes. Chaque groupe a des raisons propres de se faire préférer, d'obtenir des exceptions et d'être classé différemment. Je suis passée devant un grand musée en venant ici et je me suis dit, est-ce que je pourrais trouver de l'inspiration là? Je vais vous citer André Breton dans son manifeste surréaliste. Je vais le lire en anglais afin que les interprètes puissent ensuite comparer comment elles s'en sortent. Si dans une grappe de raisins, il n'y a pas deux raisins semblables, pourquoi voulez-vous que je décrive cette grappe en parlant de toutes les autres? Pourquoi est-ce qu'on veut toujours décrire l'inconnu et le rendre connu et le classer? L'expérience elle-même est chaque fois plus limitée et tourne en rond dans une cage dont il est toujours plus difficile de l'extraire. Et interdit toute recherche de vérité qui n'est pas conforme aux vérités pratiques acquises. Et j'exhorte les membres du directoire et le personnel à nous présenter un guide qui laisse les différences briller et ne se contente pas d'établir tout comme étant déjà une vérité connue. Merci, Sophia. Merci, Peter. Sophia Bakel. Comme vous le savez, je préside l'initiative Point Africain et Point Connect Africa, une entreprise qui est une organisation enregistrée à Maurice, qui fait partie du continent africain. Nous sommes également des sponsors de cet événement. Le personnel de l'ICANN a fait un travail extraordinaire sur la quatrième version du guide et nous sommes impatients de présenter l'application quand elle sera prête. Merci beaucoup. Merci, Sophia. Monsieur Foudi, bonjour. Très rapidement. Est-ce que l'étude sur les zones racines a été publiée? Laquelle? Celle qui vise à déterminer le nombre de GTLD qui seront possibles en fonction de l'évolutivité. Plusieurs ont été publiées. Est-ce qu'on a des conclusions dans ces études? Qui sont? Un millier de TLD, un million de TLD, c'est viable? Il faudrait s'adresser aux auteurs des rapports. Vous avez également une autre étude économique qui a été réalisée. Alors, trois choses sont demandées. Vous avez demandé que les personnes qui réalisent l'étude publient les éléments qui décrivent les impacts potentiels d'une introduction de nouveaux GTLD. Monsieur Kruger, Vancouver et Hooger se sont également eux que l'on retrouve derrière la lettre adressée à Rod Beckstrom demandant les nouveaux GTLD. Mais ils n'ont pas considéré le commentaire de Harald Alvestrand qui, à Séoul, avait anticipé une zone racine de millions de TLD. Deuxième chose, on vous avait demandé d'examiner les arguments théoriques quant aux coûts et avantages d'un nombre supplémentaire de GTLD. Le rapport indiquait que les avantages des nouveaux GTLD seraient qu'ils pourraient accroître la concurrence, soutenir de nouveaux modèles d'activité économique et libérer de nouveaux domaines et donc amoindrir les coûts. Et les avantages potentiels des nouveaux GTLD, c'est qu'ils permettront à la concurrence d'exister dans les GTLD avec de nouveaux modèles et offrir davantage de domaines et réduire les coûts de recherche. Monsieur, votre temps de parole est épuisé. Venez-en, en fait. Ceci n'est pas un accroissement de la communication, c'est de la concurrence. C'est une augmentation du coût de 10 à 1 million de dollars. Est-ce que Rob peut répondre, et Harold? Oui, la première phase de l'étude économique a été achevée et publiée en ligne sur est ouverte pour commentaires publics sur le site. Et la deuxième phase fait l'objet d'une discussion, devrait être lancée très bientôt, nous l'espérons. Merci, Harold. Je suis désolée, l'anglais n'est pas la langue maternelle. Lorsque j'ai lu le PV, je me suis rendu compte que ma déclaration, une zone racine d'un million de domaines, c'est une idée terrible. Mais il semblait qu'on pouvait lire le contraire de ce que je disais. Je pense que c'est une idée absolument épouvantable. Je voudrais dire combien j'apprécie l'étude économique. Ça fait longtemps que je la demandais. C'est une étude très détaillée qui examine des données différentes disponibles. J'aimerais mettre en lumière certaines implications découlant de cette étude. Tout d'abord, il y a le potentiel d'enregistrement défensif. Et là, il faut des études sur ces questions. Je pense que ça démontre la nécessité d'une étude basée sur les faits quant à la façon dont le système est utilisé, voire abusé, et la confusion chez les utilisateurs est possible. Ça touche à des questions sous-jacentes, les procédures concernant les comportements malveillants en lien avec l'étude économique et combien il est difficile d'évaluer les avantages et coûts des nouveaux domaines compte tenu des informations historiques. Et puis une proposition qui pourrait être utile pour l'ICANN afin de mieux étudier ces questions. Et c'est cohérent avec ce que AT&T et d'autres ont dit, faire preuve de prudence afin que les nouveaux noms de domaine présentent vraiment des avantages pour le marché et qu'ils soient déployés de façon raisonnable. La conclusion de l'étude économique serait que l'on a vraiment besoin d'une évaluation holistique de toutes les questions sous-jacentes, comportement malveillant, évolutivité de la zone racine, pour pouvoir évaluer les avantages et les coûts et comment le nouveau programme doit être déployé, quel type de protection sont nécessaires. Ma question serait la suivante. Compte tenu des conclusions de l'étude, vous avez dit que peut-être il y aura une suite. Mais comment est-ce que toutes ces questions vont être reliées ensemble pour évaluer le nouveau programme de bas en haut? À l'évidence, la recherche économique peut s'éterniser ad vitam. Si vous voulez davantage de détails, parlez avec Kurt Pritz, qui travaille avec les économistes sur cette étude. On est en train d'identifier les domaines critiques pour pousser plus avant cette étude dans sa deuxième phase. Merci, Jeff. Susan Reynolds. Je m'exprime au nom de Point Gal pour la communauté galicienne, de langue galicienne. Nous avons une solution pour les marques. Nous avons estimé que les domaines linguistiques n'avaient pas de problème avec ça. J'ai dit au Mexique que j'espère qu'on n'aura pas une quatrième et cinquième version du guide. Et maintenant, ici à Bruxelles, j'ai bien peur qu'on va encore avoir une cinquième version avant la fin du processus, ou peut-être encore davantage, qui sait. Nous voulons insister. Il est très difficile pour nous de travailler sans même avoir une idée de quand nous pouvons commencer à envoyer nos demandes. Et quand et quelles seront les exigences à la fin du processus. Ça prend trop de temps. Je crois que c'est Steve Goldstein qui a comparé ce processus à un avion. Eh bien, L'avion peut décoller sûr et à la lumière de l'expérience .4, on sait que l'avion peut décoller dans toute sécurité. Point Gal, c'est un projet à but non lucratif qui apporte des avantages sociaux aux utilisateurs d'Internet et va accroître sa diversité. L'Internet doit effectivement refléter la diversité culturelle et linguistique de par le monde et nous pouvons le faire avec ces nouveaux domaines. Nous savons que vous voulez que le processus soit équitable. Une maison où nous puissions tous vivre avec une porte. Mais si tout le monde n'a pas sa place dans la maison parce qu'elle est trop petite, eh bien, on peut commencer à réfléchir à d'autres catégories. Merci.
Can just say the board is very much, is very aware of...
Les membres directoires sont tout à fait conscients des coûts, des retards pour les demandeurs. Beaucoup d'entre nous viennent des activités commerciales et connaissent bien les coûts des retards. Ce sont des questions très sérieuses. Et il faut le faire bien plutôt que rapidement. Annabeth. Merci, Peter. Je m'exprime au nom du registraire suédois Annabeth Lange. Depuis plusieurs années, le CCNSO et l'ICANN ont essayé d'avoir un texte dans le guide pour protéger les noms géographiques et même les noms territoriaux et les noms de pays. Les CCTLD ont travaillé dur pour que nos points de vue soient connus. Il y a eu beaucoup de frustration de notre côté, donc c'est bon de pouvoir être ici et prendre la parole avec peut-être un esprit plus positif et remercier le personnel, et tout particulièrement CodePress et le directoire pour l'évolution plus positive de la quatrième version du guide et pour le dur labeur qui a été réalisé. Nous espérons que le GAC et le CCNSO vont trouver une solution durable pour les noms territoriaux et de pays sur lesquels nous puissions tous être d'accord. Nous sommes ravis avec les changements concernant les noms territoriaux. Nous comprenons pourquoi ceci a été choisi plutôt que d'accepter des abréviations significatives, même si c'était notre premier choix. Nous voulons également exprimer que nous sommes contents avec le texte concernant la post-délégation et s'agissant du texte reprenant le soutien à les objections données par les gouvernements. Cela facilitera les choses. Nous verserons des contributions par écrit et nous reviendrons là-dessus plus tard. Merci Annabeth, merci pour vos mots aimables au sujet du personnel. C'est grandement apprécié. Enfin, Monsieur Alzeman, Monsieur le Président, Monsieur Alzeman n'était pas en mesure de faire cette intervention. Il est rentré en Arabie Saoudite. Il m'a transmis de lire cette brève déclaration avec votre permission. Abdelaziz Alzeman, que la paix soit avec vous. S'agissant de la partie paragraphe 1.1, éligibilité et vérification du compte de fonds, je suis très préoccupée concernant cette quatrième version du guide, puisqu'il y a la mention du terrorisme qui fait partie des vérifications de fonds quant aux demandeurs, sans fournir aucun critère ni définition à la lumière de laquelle on pourrait accorder ou rejeter une demande pour un GTLD. Les vérifications de fonds à la lumière dans le contexte du terrorisme, sans définition, est inacceptable pour beaucoup de gens, beaucoup de communautés de par le monde. La communauté internationale est très divisée sur qui est un terroriste et qui est un activiste de la liberté. Et en l'absence d'une définition du terrorisme dans le guide, il est très surprenant de voir que l'ICANN s'implique dans le domaine du terrorisme alors que son mandat est d'être simplement un coordinateur technique mondial. Avec mes respects, merci. Merci. Katsu Origashi et M. Pelage.
Mike. Merci, Peter. Mardi après-midi, le regroupement des registraires, vous avez discuté comment... on a parlé de la retraite du directoire de 2 jours et ces 2 jours consacrés à régler des problèmes pendants et inclure ceci dans la nouvelle version du guide. Alors beaucoup de demandeurs en seraient ravis, comme vous avez pu l'entendre, mais comme je l'ai dit également mardi, finaliser ce guide sans que l'on ait réalisé les études, sans qu'on ait le rapport économique, pourrait décevoir pas mal de gens dans la communauté qui les ont demandés, tout particulièrement le GAC. Alors voilà ma recommandation. Quoi que vous fassiez au mois de septembre, quoi que vous fassiez, vous êtes dans une situation kafkaïenne. Donc, au cours de discussion de 2 jours, faites une conférence vidéo afin que la communauté ait confiance dans ce que vous faites. Nous ne demandons pas une télé-réalité de vos dîners, déjeuners, promenades. Je l'ai fait. C'est votre temps pour vous. Mais quand il s'agit du personnel tentant de résoudre ces questions, la communauté veut le voir. C'est comme ça que vous établissez la confiance. Merci beaucoup, Mike. Aucun problème, on pourrait tout à fait organiser cela. On va y travailler. Elliot Noss, c'est le dernier sur ma liste. Je ne suis même pas certaine que vous étiez sur la liste, madame. Non, effectivement. Mais j'ai vu qu'il n'y avait personne d'autre. Je crois que vous devez prendre absolument la parole avant que M. Noss n'arrive au micro. Alors, je participe pour la première fois à la Holgofer. Je veux exprimer ma gratitude et j'espère ainsi que l'on terminera sur une note positive. J'aimerais vous témoigner de ma gratitude parce que l'ICANN nous donne à tous une opportunité de nous exprimer, de faire part de nos questions, de faire des commentaires, de livrer nos objections. Et voyez, nous venons tous de contextes différents et ici, c'est l'endroit où chacun peut s'exprimer, faire entendre sa voix. Et ce que j'ai vu ici, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de crainte. Chacun ouvre son cœur, ouvre son esprit, dit ce qu'il pense et je souhaiterais dire une chose. Une organisation fondée sur les principes où il n'y a pas de crainte a de l'avenir et un avenir radieux. Merci à vous de la part de tous les participants.
That's the multi-stakeholder model.
C'est le modèle multi-partie prenante. Merci. Elle m'a ôté les mots de la bouche. Elliot, vous n'êtes pas quelqu'un qui vient pour la première fois. Je suis désolée. Mais vos commentaires ont toujours une touche de fraîcheur et sont les bienvenus. J'ai écouté. C'était une longue file d'attente, une vive discussion. Et je suis revenue en arrière dans le temps, 99. Quand on était sur le point de lancer, c'était juste les mois avant, de lancer un registraire concurrentiel. Et je me souviens très très bien, c'est qu'à ce moment-là, nous étions en train de faire quelque chose de radicalement différent. On était en train d'induire des domaines de vente en gros. Chaque registraire, à ce moment-là, passait à la vente au détail. On a fait un APR qui n'aurait jamais dû voir le jour. On a permis aux entreprises d'hébergement de vendre des noms de domaine directement. Ça n'avait jamais été fait auparavant. Et on a passé les 6 derniers mois, en 1999, à nous ronger les ongles en se demandant comment l'ICANN allait nous permettre de faire cela et comment nos concurrents qui étaient... très grand et qui était apeuré, allait nous écraser. La chose la plus surprenante quant à cette expérience et au lancement, c'était le très grand nombre de conséquences inattendues qui ont découlé. Jusqu'au lancement,
pratiquement tous les registraires avaient été cotés à $35, comme les registraires existants, un monopole. Chaque registraire, tous les registraires vendaient des noms de domaines semblables à ceux qui existaient. Il a fallu 3 mois, les 3 premiers mois de l'an 2000, pour que l'on soit copié, pour que notre prix baisse et pour que les gens fassent ce que nous faisions, mais en mieux. Ceux qui ont tiré les plus grands avantages de ces changements ont été les demandeurs de licences, les détenteurs. Alors, on ne sait pas ce qui va se produire, mais vous ne pouvez jamais prévoir l'innovation. Et je peux vous promettre qu'aucune étude économique, aucune personne vous promettant un avantage dans ce processus va garantir des bénéfices, des avantages aux registraires. Les registraires tirent des avantages de l'innovation en laissant les gens qui sont créatifs faire ce qu'ils savent faire le mieux. Merci. Merci. Nous clôturons la discussion sur les GTLD pour aujourd'hui. Alors, voilà comment je vois les choses. On termine avec le processus de commentaires publics bientôt. Il faudra du temps au personnel pour récolter tous ces commentaires. Donc, ce sera en septembre que l'on aura des propositions documentées à soumettre au directoire. Alors, on a suggéré que la retraite du directoire soit transformée en réunion pour trouver des solutions au nouveau GTLD. Si nous pouvons le faire et apporter des solutions définitives, ce sera bien pour la réunion de Cartagena. Kurt a dit qu'on essaiera de préparer un ordre du jour pour cela. Ma préoccupation est qui va pouvoir se réunir ? Est-ce que le GAC pourra se réunir entre les séances ? Donc il y a toutes sortes de questions à régler. Mais je remercie Mike Pelage de cette suggestion. On vient au point suivant et c'est avec tristesse que nous devons dire adieu à Addis Catlin qui a présidé le comité consultatif gouvernemental et qui a occupé ce mandat ces 3 dernières années. Un des membres du GAC qui a dû repartir, J.M. Fernandez du Sri Lanka, a dû partir et il a dit que je dois exprimer toute ma gratitude pour son effort durant le mandat. Je me souviens de l'avoir rencontré pour la première fois à la réunion au Luxembourg. Il s'est présenté comme le représentant permanent de la mission lettonne à Genève, mais je ne comprenais pas ce qu'il faisait à la réunion de l'ICANN et il a répondu très brièvement. Il a dit qu'il voulait voir comment l'ICANN travaillait. Et en bon terme diplomatique, il a été concis et direct. Et ensuite, on s'est réunis à Genève en 2005. Notre ambassadeur à Genève nous a dit de rencontrer de nouveau Yannis. Plusieurs questions ont été discutées aux quatre coins du monde qui avaient à voir avec le WSIS et la viabilité du modèle des parties prenantes pour la gouvernance. Même au sein des délégations, il y avait des frictions et au sein des les pays en développement ne savaient pas très bien quelle position adopter. Yannis a assuré une direction à cette phase cruciale des travaux et a permis de dégager un consensus avec négociation patiente avec toute sa diplomatie, permettant à l'ICANN d'arriver à bon port et permettant au modèle multipartite d'avoir un Internet stable et sûr. Et c'est ainsi que Yannis a gracieusement accepté de diriger la communauté GAC en 2007. Et son talent diplomatique bien connu a permis à ce processus d'inclure les pays en développement et les économies de par le monde. Et il a pu mettre tout le monde à l'aise. Il a
pu prendre les points de vue très différents des uns et des autres et faire ceci en mettant tout le monde à l'aise. Et je suis d'avis, c'est le cas de mes pères de mon pays, qu'il est un ambassadeur par excellence. Il est très, très respecté et je dois le remercier pour tout ce qu'il a fait en tant que président du GAC.
Je
ouvre maintenant le débat pour d'autres commentaires très brefs. Est-ce que des membres de la communauté souhaitent intervenir? On peut peut-être entendre deux interventions de la communauté, deux interventions des membres du directoire. Marilyn Kay. Oh, je me sentirais mal de ne pas dire que je m'associe pleinement à l'hommage rendu à Yanis Carter. Tout au début du WSIS, les communautés ONG et communautés d'affaires se demandaient où trouver une porte pour entrer et quelle discussion allait avoir lieu sur l'Internet, les ICT, enfin les TIC et d'autres sujets. Il a démontré une volonté d'écouter tout le monde et de travailler dur pour ouvrir ses portes et organiser un espace où nous puissions tout simplement prendre place dans la salle. Nous avons travaillé pour élaborer le modèle multipartite à l'IGF, mais Yanis a été l'artisan de cela. Le concept des multiparties prenantes. Alors, est-ce que Yanis a fait tout cela sous cela? Non, mais il a été un artisan essentiel et nous l'en remercions. Comme en tant que quelqu'un qui était là au début, au tout premier jour de l'ICANN, j'avais 3 ans à l'époque.
Souvenez-vous, lorsque nous étions préoccupés par qui allait être le premier président du GAC et qui allait être le second président du GAC, et je pense que Yanis nous a vraiment fait un beau cadeau. Il a conçu le modèle qui allait nous aider à recruter toujours le type approprié de président du GAC. Et il a mis la barre très haut pour nous tous par rapport à notre propre pratique pour que nous soyons vraiment pour que nous apportions des contributions précieuses, peu importe le chapeau que nous portions. Merci Marilyn. Je vais interrompre la file après Chuck. Et c'est un commentaire sur l'affirmation des engagements. C'est simplement pour dire des choses merveilleuses sur Yanis. C'est l'hommage à Yanis Karklins. Je veux vous remercier pour l'incroyable souplesse que vous avez introduite dans ce rôle. J'ai parlé de Yanis à la réunion du GAC du CCNSO, GAC. Je pense que Yanis a fait un travail étonnant, mais on peut le résumer en disant que la manière dont le GAC et le CCNSO ont réussi à établir cette relation s'est améliorée. Alors, évidemment, la procédure fast track est peut-être l'exemple le plus brillant de cette collaboration très étroite. Je pense que Yanis, tout le monde a une énorme dette envers toi. Merci beaucoup. Merci, Chris. C'est agréable d'accueillir un nouveau vice-président du conseil d'administration. Je m'appelle Alejandro Pisanti. Et concernant le point de notre relation avec Yanis, il est très important de nous souvenir que ICANN n'existe pas dans un vide. ICANN existe dans un environnement très, très difficile et dans un environnement dur. Le fait que qu'on ne nous jette pas des pierres et qu'on ne nous envoie pas des roquettes, ça ne rend pas les choses plus faciles. Ça ne rend pas la tâche de maintien de la paix de ICANN plus facile. Le sommet mondial sur la société de l'information a été vu par beaucoup comme une énorme réaction excessive de la part de certaines organisations qui créent un environnement où ICANN ne serait plus pertinent ou serait absorbé, où il y aurait des décisions prises par des pouvoirs importants pour remplacer ICANN ou pour soumettre ICANN à des autorités plus élevées. Yanis était sensible depuis très tôt dans ce processus à ce qui étaient les objectifs réellement importants à réaliser en matière de croissance, en termes de croissance de la société de l'information, et a été bizarrement capable de faire face à toutes sortes d'arguments, des arguments directs et des arguments sournois, baroques, qui retiraient toute la valeur que le sommet pouvait avoir. La communauté ICANN ne peut que se concentrer sur des... ne peut qu'être reconnaissante pour toutes ces contributions. Merci Yanis. Merci. C'est pendant ton mandat aux commandes que je pense que nous avons finalement commencé à avoir les communications, à communiquer entre le GNSO et le GAC. Et je pense que ce que nous avons eu cette semaine, le processus de communication que nous avons eu cette semaine est probablement un des meilleurs. Une des choses que je voudrais dire très spécifiquement, c'est que j'ai été très impressionnée par ta capacité de réagir dans les communications chaque fois que nous t'avons demandé des informations. Ta capacité de fournir ces informations en temps utile est extrêmement appréciée aussi, et tu es très occupée, donc c'est vraiment un compliment à te faire, je pense.
Hommage à Yanis qui a vraiment donné l'exemple de la souplesse et de la diplomatie ici au GAG et aussi au Sommet mondial sur la société de l'information. Mais il faut dire aussi qu'avant lui, il y avait Adama Samsiko qui avait fait aussi la même chose pour la première phase. Donc, merci Yanis pour tout ce que tu as fait.
Thank you very much. Now, I have an indication from board members.
Donc, j'ai des indications de la part du directoire, des membres du directoire. Ray voudrait dire quelque chose. Yanis, tu as servi d'interface de différentes manières au cours de ces années, indirectement pendant ton mandat, indirectement pendant le processus WSIS, pendant ton mandat en tant que président du GAC, lorsque j'étais avec le NRO, très très souvent dans des discussions sur différents problèmes d'adressage. Depuis que je suis rentrée dans le directoire en tant que coprésident du groupe de travail directoire GAC et aussi en tant que membre du directoire, j'ai toujours apprécié tous les débats que nous avons eus et j'en ai toujours retiré quelque chose de positif. C'est la raison pour laquelle je voudrais vraiment te remercier pour toutes tes contributions. Merci, Ray. Tout simplement pour que les membres de la communauté s'en rendent compte, le directoire a eu un certain nombre d'occasions de dire cela, donc je vais limiter les commentaires émanants du directoire. Et Yanis sait que le board, quels sont les sentiments du board par rapport à son départ. Rod Beckstrom, Yanis, tu es un dirigeant renversant, ce que tu as réussi à accomplir avec tellement de compétences et tout en douceur, comme véritable diplomate et comme dirigeant politique stratégique, c'est absolument phénoménal. Et je te remercie du fond de mon cœur pour toute l'aide que tu m'as apportée en tant que CEO de ICANN et pour le modèle absolument exceptionnel que tu me proposes, que tu m'offres. Merci, Rod. Bon, Yanis, il est temps que tu viennes ici à la tribune et que tu assumes.
There we go. No, still not on. Yes, thank goodness for that. Yanis, I just want to add a very few comments to the ones I've made previously.
Ajouter quelques commentaires aux commentaires que j'ai fait auparavant et dire aussi que c'était fantastique de travailler avec vous. Alors, en tant que président du GAC, tu as fait un travail fantastique en tant que chargé de mission, officier de liaison entre le GAC et le directoire. Tu as aussi fait un travail magnifique et cette capacité d'intervenir à temps, cette réactivité très rapide, c'est vraiment une de tes caractéristiques. Et c'est, je pense que ton accomplissement le plus récent, c'était ton travail dans la sélection des équipes d'évaluation et de capacité. Et bon, je te vois gérer les consultations de la communauté, mettre ensemble ce qui semble être très difficile à constituer, une équipe de professionnels très difficile à continuer, à constituer, pardon. Et je veux vraiment te rendre hommage et je suis content pour toi que tu partes vers de nouveaux horizons tout à fait passionnants. J'ai le plaisir de te remettre ce diplôme comme manière de te remercier pour ton service à ICANN et en gage de notre appréciation. Merci, Peter. Je ne suis pas vraiment habituée à ce type de cérémonie. Ça me rappelle la dernière fois. Parce qu'il y a trop de choses qui ont été dites. Merci beaucoup. Je dois dire que j'ai eu une période de ma vie très gratifiante, pratiquement autant que pendant le sommet mondial sur la société de l'information. Je pense toujours qu'il n'y a pas de chef d'orchestre pour conduire l'orchestre. Et l'orchestre, ce sont mes compagnons au sein du GAC. Et je crois qu'ils doivent... Alors, ils devraient faire la file pour que je puisse les remercier chacun à leur tour. Mais j'ai beaucoup de personnes à remercier, mais je vais commencer par mes pairs au sein du GAG, ceux qui ont travaillé au GAG, qui ont participé au GAG lorsque j'ai commencé en tant que nouvel arrivant, en tant que personne invitée. Je vous remercie vraiment de tout cœur. Sans votre travail, sans votre soutien, tout ce que nous avons réalisé n'aurait pas été possible. Alors très clairement, je dois énormément de gratitude à ceux du personnel de l'ICANN qui m'ont aidé et incontestablement Massimiliano qui m'a aidé au cours des années. Donc énormément de remerciements pour lui de ma part, mais aussi tous ceux du personnel de l'ICANN avec lesquels j'ai travaillé en étroite collaboration, qui Paul Tomey, Teresa Swinehart, Doug Brent, Kurt Pritz et tous les autres dont je ne vais pas mentionner les noms simplement pour gagner du temps. Alors, directoire, merci beaucoup. Avec vous, j'ai passé environ 50% de mon temps. Et ça a été vraiment une période très intéressante de voir la dynamique parmi les membres du directoire, de voir comment chacun d'entre vous réagissait sur les choses que le GAC me demandait de dire, de communiquer au directoire. J'ai rencontré des gens extraordinaires parmi les membres du directoire. Vince Cerf, Steve Crocker, Peter, Alessandro et beaucoup d'autres. Merci beaucoup. Ça a été un véritable plaisir de travailler avec lui, avec vous. Et j'espère que ce n'est pas mon dernier discours au sein de ICANN parce que en tant que assistant directeur général de l'UNESCO, je serai responsable de la mise en œuvre de l'accord que Rhodes a signé avec l'UNESCO. Donc, je reviendrai et nous travaillerons ensemble. Merci beaucoup. Je ne vais pas m'en aller. Je vais rester dans les environs. Et lorsque je serai complètement partie, nous pourrons peut-être répéter cette cérémonie. C'était très agréable. Merci beaucoup.
Okay, let's go back to the agenda items. We're now at general business or any other business. Are there any other items that people want to...
Revenons au point à l'ordre du jour. Nous traitons maintenant d'affaires générales où nous sommes au point divers, disons. Y a-t-il d'autres points
que vous souhaitez soulever au sein de ce forum public. Nous sommes un petit peu en retard, donc nous allons vraiment essayer de nous en tenir au programme, d'être raisonnable en termes de programme. Chris, c'est toi le premier. Merci. Bonjour à tous à nouveau. Je voulais très brièvement faire savoir à tout le monde que sur le sujet de la sécurité et de la stabilité du DNS, le GNSO, le CCNSO et le At Large ont donné leur accord pour monter un groupe de rédaction pour rédiger une charte en vue d'un groupe de travail trans-ICANN, on va dire, qui serait chargé de se pencher sur les questions relatives à la sécurité et à la stabilité du DNS. Si ce groupe de rédaction arrive à arriver à un consensus sur une charte, alors logiquement, et nous l'espérons d'ailleurs, le groupe de travail lui-même suivra. Nous demanderons à l'ASSO, à travers l'ARO, de se joindre à nous, et le comité consultatif gouvernemental, le GAC, a indiqué qu'eux aussi nous aideront dans la rédaction ou dans la constitution de la charte. Et si le groupe de travail est formé, nous allons contribuer à ce groupe de travail. Je voudrais simplement en informer tout le monde. Simplement, une réponse rapide de la part de Bruce. Chris, je suis très heureux de voir un sujet technique pris en considération par les organes politiques de ICANN, en plus présenté par un avocat qui n'a absolument aucune compréhension, aucune compétence technique, quelle qu'elle soit. Donc, ça doit marcher. Alors, un commentaire par rapport à l'affirmation des engagements et toute l'attention que nous y consacrons, particulièrement parce que nous entreprenons les évaluations. Il y en a une qui est en cours et il y en a deux autres qui ont lieu cet été. Ce que je voudrais proposer, c'est... ce que je voulais dire, c'est que l'intérêt public du mondial sera tellement important ici. Je vous l'ai déjà dit auparavant, vous savez que cela revient 3 fois dans le règlement et le terme intérêt public est utilisé 5 fois dans l'affirmation des engagements, 3 fois au début et encore 2 fois dans le paragraphe 9 qui parle de l'évaluation. Le paragraphe 3, la première fois qu'il parle d'un engagement clé de ICANN, il dit que le numéro 3 est là pour assurer que les décisions liées à la coordination technique mondiale des DNS soit prise dans l'intérêt public. Donc, nous avons tenu compte de ça, mais qu'est-ce que l'intérêt public signifie dans le contexte de l'ICANN? Ce qui est important encore, qu'est-ce que les signataires de l'affirmation des engagements signifient lorsqu'ils mettent le document ici et avant de le signer? Les États-Unis, d'après ce que j'ai compris, sont le seul signataire jusqu'ici, mais je pense que ce serait bien si d'autres nations pouvaient signer ces engagements aussi. Et ce serait dangereux si, d'autre part, elles avaient chacune leur propre définition de l'intérêt public. Donc, sans définition claire, je pense que nous risquons de générer des risques plus que par le passé, particulièrement dans une ère post-transition, alors que nous fonctionnons dans le cadre de cette affirmation d'engagement, parce que ça fait partie de, comme si ça faisait partie de notre règlement. Donc, finalement, j'aimerais dire que je le dis trop souvent, que nous avons besoin d'une définition de l'intérêt public. Je sais que c'est peut-être ennuyeux, mais c'est une question d'intégrité. Alors, je pense que ICANN doit vraiment s'attacher à faire cette définition de l'intérêt public pour tout ce qui concerne la coordination technique du DNS. Bertrand Lachapelle, représentant français au GAC. Alors tout d'abord, je voudrais soutenir les commentaires de Mike Palach sur la nécessité d'alimenter les discussions du board sur les nouveaux GTLD. Ensuite, je voudrais aussi approuver à nouveau l'idée du sommet possible pour aplanir les derniers problèmes. Mais avec un petit avertissement, nous avons eu une très mauvaise expérience en termes de processus autour de l'EOI. Il est extrêmement important que les discussions concernant n'importe quel sommet ou toute réunion aient lieu directement aussi rapidement que possible avec les présidents des organisations de soutien et les comités consultatifs. Il y a une liste qui a été établie pour ce faire et j'espère que la définition des modalités sera incluse dans cette liste et sera envoyée au président des organisations de soutien et des comités consultatifs. Et finalement, pour répéter un commentaire que j'ai fait au cours d'une des sessions publiques concernant le grand intérêt de l'élargir, de nous pencher un peu plus sur les modalités de la mise en commun, du batching des demandes, la mise en commun des demandes.
Aujourd'hui, il y a un paragraphe dans le guide, il y a un aspect très important de justice, de traitement, d'égalité de traitement, et je pense que c'est l'endroit où la notion de repérage, de suivi des différents enregistrements, des catégories doit être inclus, parce que c'est utile, c'est là que c'est utile. Donc il n'y a pas, ça n'implique aucun retard, et je répète avec conviction la responsabilité et ma responsabilité et ma disponibilité. Les personnes qui ont travaillé sur les concepts de catégories, même les membres du GAC, sont prêts à en discuter avec le personnel d'une manière appropriée, et j'aimerais bien que cette proposition soit traitée sérieusement, soit considérée sérieusement, plus sérieusement que les commentaires antérieurs concernant les catégories où la réponse était toujours oui, oui, c'est une bonne idée, nous allons l'examiner. Merci. J'ai parlé auparavant des promesses de ICANN qui n'ont pas été tenues pour les IDN-GTLD. Je suis content que vous m'ayez donné la possibilité de participer à votre réunion avant aujourd'hui. Et je suis très heureux de toute l'infrastructure ici, mais j'ai une question importante pour vous. Quelles sont les mesures de reddition de compte que ICANN va prendre pour que les propriétaires de SNB, comme moi, qui prennent le temps et qui assument le coût d'arriver aux réunions et de participer en vos discussions, puissent commencer à avoir confiance dans les réponses qui sont données à ces réunions? Bon, ce n'est pas maintenant le moment de vous expliquer les mécanismes de reddition de compte qui sont inclus dans le règlement. Ça ne sert à rien de vous dire qu'il y a une équipe qui évalue notre reddition de compte et notre transparence. Vous avez peut-être envie de participer à leur travail, si ça peut vous aider. Mike. Merci, Peter. Il y a environ 2 ans, à Washington, D.C., j'ai spécifiquement posé la question de l'inclusion des privilèges et des immunités de ICANN comme organisation sans but lucratif dans un accord de coopération exécuté au sein des Nations Unies, de la Commission économique des Nations Unies pour l'Asie occidentale. L'année dernière, au Forum public de Sydney, sur l'amélioration de la confiance institutionnelle, j'ai posé la question d'un accord entre ICANN et le Nouveau Sud. Et on m'a dit que ces documents seraient disponibles et le nouveau gouvernement du sud du Pays de Galles. Le président et le CEO m'a dit que ces documents allaient être disponibles dans un bref délai en ligne. Ça fait 12 mois, ils ne sont toujours pas là. Et je m'y retrouve assez bien sur le site web de ICANN lorsqu'il s'agit de naviguer. Alors ma préoccupation, c'est que ICANN a une approche très patchwork de ces organisations. Je suggère qu'il y ait une discussion de la communauté sur les cadres et les principes de ces accords, et que la communauté de l'ICANN et que l'ICANN en des consultations publiques avant l'exécution de ces accords dans l'esprit d'ouverture, de transparence et de reddition de comptes qui devraient la caractériser. Donc ma question aux membres du directoire, c'est y a-t-il des membres qui ne sont pas d'accord avec cette approche? Nous n'avons pas le temps de conduire des sondages parmi les administrateurs dans des réunions comme celle-ci, Mike, sinon ça prendrait trop de temps. Je pense que c'est très important ce que tu dis. Il y a certainement beaucoup de vrai, et je vais m'assurer que Rod prend des notes sur la nécessité de mettre ces documents à disposition sur le site web. Est-ce qu'il y a une question par rapport aux immunités? Tu peux me la communiquer plus tard. Alors, je m'appelle Werner Staub. Je voudrais exprimer mon appréciation pour le travail des sténographes qui nous aident à voir, à visualiser ce qu'on dit ici. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Montrons-leur notre appréciation. C'est la seconde réunion au cours de laquelle elles travaillent à distance. Et je suis étonnée de ce qu'elles sont capables de réaliser de cette manière. Je pense que ce serait fantastique si elles étaient ici. Et ce serait fantastique si elles étaient ici, parce que je pense qu'elles pourraient en faire plus et arriver même à suivre mieux ce que nous disons. Et elles pourraient faciliter aussi la tâche aux personnes qui essaient de suivre ce que nous disons. Parce que c'est plus facile si c'est transcrit par des personnes qui voient directement les personnes qui participent. En plus, il y a des discussions qui disent selon que ça a été très bien d'avoir les scribes en temps réel. Là où il n'était pas à notre disposition directement. Alors, en tout cas, nous pouvons dire que nous avons un outil qui est hautement amélioré. J'encourage tout le monde à l'utiliser. Jonathan Suck. Alors, je pense que vous pouvez déjà écrire mon discours pour moi. Il y a un proverbe belge qui dit qu'un pays heureux n'a pas d'histoire. Alors, cela va sans dire que cette organisation a beaucoup d'histoire. Mais je crois que tout le monde dans la communauté, depuis les commentaires publics, en passant par les commentaires au micro, les organisations de plaidoyer, etc., je pense que tout le monde a montré beaucoup d'idéalisme et beaucoup d'optimisme par rapport à ICANN et par rapport à son modèle multipartite. D'autre part, il y a un autre rôle qui doit être attribué à Rhoda May Brown. Il y a un autre dicton qui peut être attribué à Rita May Brown et qui dit que la définition de la folie, c'est le fait de répéter sans cesse la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Alors je dois admettre que de temps en temps, je regarde dans le sac d'ICANN et je m'attends à trouver un esprit et des machines enfermées dans une camisole de force. J'espère que nous n'agissons pas de manière comme des fous à force de continuer à essayer de participer à ce processus. Donc je vais essayer de revenir à une vieille histoire. C'est la raison pour laquelle nous avons pris une initiative sur la confiance institutionnelle qui était remplacée par l'affirmation des commitments, des engagements, je pense qu'on peut le dire. J'ai vu un échange entre les équipes responsables de l'évaluation et le directoire qui paraissait suggérer qu'il y a eu une confrontation entre le personnel et le directoire et que l'équipe d'évaluation. J'ai entendu un commentaire de Peter à un forum il y a quelques jours à la Fondation européenne sur Internet disant qu'il s'attendait ou qu'il aspirait à l'affirmation des engagements. J'espère que tous les participants de ce directoire, et je ne vais pas faire un sondage puisque vous avez coulé cette idée auparavant, mais j'espère que toutes les personnes présentes à ce directoire sont engagées dans le respect d'un ensemble de critères rigoureux et objectifs pour établir les objectifs de cette organisation et la mesure de son succès. Parce que sinon, nous perdons notre temps avec une rhétorique inutile sur la reddition de comptes et la transparence. Nous devons objectiviser et mesurer ce processus si nous voulons qu'il fonctionne. Je vais mettre fin à la liste des orateurs après l'orateur actuel. Donc c'est Edmond. Edmond Chung, merci. J'ai trouvé une procédure accélérée apparemment, parce que je pense qu'ils étaient avant moi. Mais bon, soit j'écoutais et peut-être... S'agit-il d'un processus inutile, encore une fois, mais j'observe qu'il y a de plus en plus de situations où nous créons des groupes de travail qui sont représentatifs de la communauté, des organisations de soutien. Je pense que c'est peut-être une tendance et il me semble que c'est quelque chose qui... disons que c'est une question ouverte. Pour tout le monde dans la communauté, il pourrait y avoir une sorte de processus de création de ce type de groupe de travail parce que si on regarde, par exemple, le fast track des IDN, lorsque ce groupe a été créé, il y avait différents types de, bon, je n'irai pas jusqu'à dire tension ou friction, mais au moins il y avait des conditions où un niveau de certitude pouvait aider à ce type de groupe de travail d'une ampleur communautaire ou qui représentait la communauté. On pourrait peut-être réfléchir à ce processus pour qu'il soit un petit peu plus prévisible.
Marilyn Cake, trois commentaires. Tout d'abord, sur la question des différents protocoles d'accord. MOU, je suis président du comité stratégique et on a parlé des types d'accords que l'ICANN pouvait passer avec différentes entités. Et je serai très attentive à ça et j'invite le directoire à faire attention aux différents accords avec différentes entités internationales ou différents pays. Il est très difficile d'avoir une idée des obligations que vous entreprenez et si vous vous liez avec un accord, eh bien, vous pouvez après vous apercevoir que vous aurez la difficulté à gérer différents accords avec différents engagements. Dans certaines juridictions, il y a la clause de la nation la plus favorisée. Voilà. Deuxièmement, une réunion entre les sessions, eh bien, je serais très prudente. On n'a pas suffisamment d'argent pour réaliser les activités qui sont essentielles pour ma communauté. Donc, penser qu'on puisse faire cette réunion entre séances, ça ne me semble pas possible. Quand beaucoup des membres de ma communauté ne pourraient pas participer, je me demande si les membres du gouvernement de ma région pourraient participer.
Essayez de trouver un équilibre, je vous en prie. Enfin, j'aimerais annoncer qu'une fois de plus, à cette réunion, le regroupement des acteurs commerciaux et d'autres vont organiser une activité de sensibilisation pour les communautés locales. Et nous avons approfondi nos relations avec les autres communautés et nous avons programmé un événement impliquant toutes les personnes et les communautés présentes. Et nous continuerons à organiser des activités qui rapprochent les acteurs commerciaux et pour les inviter à s'impliquer davantage à l'ICANN. Merci d'organiser cela et merci de m'inviter. Pour ce qui est de la discussion qui nous intéresse, maintenir l'enthousiasme des régions, vous maintenez la cohésion de ce groupe et j'ai suggéré que l'on se contacte sur Internet. Je vais à l'IGF d'Afrique de l'Est. Je vais m'arrêter en cours au Kenya pour rencontrer les communautés qui vont se réunir là-bas. Et on va proposer un petit projet pilote où l'on tentera d'identifier des petits acteurs économiques d'un pays qui pourraient venir à la prochaine réunion et tenter de catalyser une relation durable dans le pays d'où je viens et avec les autres communautés. Ce sera un projet pilote. On n'a qu'encore trouvé de financement, mais on sait que ces acteurs-là sont intéressés. Merci beaucoup. Ça générerait tellement d'enthousiasme que d'avoir ces relations. Et c'est bien d'avoir un programme pour que cela perdure. Bruce, une chose me vient à l'esprit. Tenter d'avoir connaissance de tous les petits événements. En général, on connaît les grands événements ici à Bruxelles, en Colombie. Il y a d'autres événements régionaux organisés par les registraires et parfois le personnel d'ICANN s'y rend. Ce serait bien de partager les informations sur ces événements et pour tenter coupler les événements afin de partager les coûts entre nous. Ça me semble être une bonne chose avant de passer à la participation à distance. Merci, Peter. Alors, je m'appelle Eric Eric Bennett-Williams. Je m'exprime à titre personnel. Je suis employé par CORE. Alors, Keita fait une recherche. L'Université de Californie a participé. Il s'agissait de l'absence de relations entre les fournisseurs de services de registre et l'ICANN. Malheureusement, c'est assez technique et c'est lu. Les interprètes aimeraient bien avoir une copie de ce type de document lu. Ne pas avoir de contrat, cela signifie qu'on a des données où il n'y a pas de responsabilité. Ça empêche les formulations de politiques fondées sur des données. Il est possible de formuler des politiques en se fondant sur d'autres données, mais nous ne recommanderions pas une telle politique comme étant se fondant sur des bases scientifiques. Et les accords d'interservices sont insuffisants en eux-mêmes. Et j'aimerais faire la même commentaire. Le besoin d'une relation entre ISP, registraire, fournisseur de services et l'ICANN pour l'avenir. Et c'est ce que vous avez dit, Peter, cet après-midi, quant au regroupement. L'évaluation des demandes implique plus qu'un examen du nom de demandeur. Il n'y a demandé deux fois ou plus si VeriSign ou CORE offrent suffisamment de services registraires pour répondre aux besoins d'un demandeur. Ça n'a pas beaucoup d'avantages de le faire une deuxième fois. Donc, dans le processus d'évaluation, on pourrait faire des économies en reconnaissant que certains aspects des applications, les aspects techniques, une fois évalués, n'ont pas besoin d'être réévalués parce que ça n'apportera pas plus d'informations que celles qui ont déjà été identifiées comme étant utilisables et nécessaire. Merci. On va terminer avec un dernier commentaire d'un participant à distance, Georges Kirikos. Oui, Peter, merci. Deux questions en deux minutes, j'espère. Premièrement, les fournisseurs du DRP et ensuite les couches juridiques. On a découvert récemment dans la communauté ICANN que les panélistes UDRP ont tout simplement copié et collé des trucs qui n'avaient absolument aucun sens. Et les fournisseurs UDRP ont été vivement critiqués pour encourager une espèce de forum de shopping par les plaignants. Est-ce que l'ICANN va demander aux fournisseurs UDRP qui sont sous contrat de garantir la conformité et le respect de leurs obligations? Alors, pour ce qui est des frais juridiques, alors beaucoup de grands cabinets d'avocats ont coupé leurs coûts. Est-ce que l'ICANN va faire un appel d'offres pour s'assurer que le public obtient la représentation, la meilleure représentation au meilleur coût? On a pensé apparemment 2 millions chez John's Day, d'après la dernière déclaration fiscale, alors qu'un autre cabinet pouvait fournir les mêmes services pour un moindre coût. Une autre gros cabinet juridique, il est Rita Rodin par exemple, mais il y en a d'autres. Est-ce qu'il y a un autre cabinet juridique qui a représenté l'ICANN ces 10 dernières années? Est-ce que John's Day a le monopole? Et combien a-t-on dépensé auprès d'autres cabinets juridiques des derniers 12 mois à part John Day? Merci George Way, vous avez raison de nous rappeler ce contrat. On va se repencher sur la question. Il y a un document en préparation. Pour ce qui est des frais, on a obtenu un rabais avec John Day. Et voilà la situation. Donc on en a terminé avec les commentaires publics. Est-ce que les membres du directoire souhaitent intervenir, Cathy? Bien. Merci. Bonjour à tous. Ça a été une séance très intéressante pour échanger sur toutes ces questions dans l'esprit de ce qu'est l'ICANN. J'ai deux commentaires à faire. L'un porte sur le fait que je pense que l'ICANN fait un travail énorme en tentant de digérer tous les commentaires et les excellentes idées que nous transmet la communauté. À plusieurs reprises, ici, mais pas seulement, pratiquement à chaque fois qu'il y a une réunion à ICANN, des gens dans la communauté me disent que on a suggéré ceci et rien ne s'est produit. Et voilà ce que j'aimerais suggérer. À partir de ce forum, je suggère qu'on ait une compilation de toutes les suggestions avec l'intention que lors de la prochaine réunion, on puisse, lors de forums publics, annoncer ce que l'on a fait de toutes ces bonnes suggestions. J'aimerais savoir si cette suggestion, à propos des suggestions pour le prochain forum, alors, chaque fois qu'on nous demande est-ce que ma suggestion a donné quelque chose, eh bien, moi, j'aimerais qu'on compile toutes les suggestions. Et puis, la prochaine fois qu'on se réunira, on pourra dire à la communauté, voilà les suggestions que l'on a recueillies, voilà celles que l'on a pu prendre en compte. Et l'autre commentaire, très rapidement, c'est la question de l'ouverture à l'ICANN sur ce qu'on fait. Un représentant de Chine a dit que le slogan de l'ICANN, c'est un Internet et tout le monde connecté. Et ça, c'est au cœur de toutes les discussions que l'on a eues sur l'internationalisation du travail de l'organisation et l'activisme et l'ouverture. Je pense qu'il est important pour nous de comprendre que quoi que l'on fasse, si l'on ne met pas en œuvre ce que l'on annonce, eh bien, il va y avoir une grande déception. Beaucoup ont dit « Oui, mais l'ICANN m'a promis ceci et n'a pas tenu sa promesse. » Et il faut se garder de prolonger une telle situation. L'Afrique, par exemple, si vous regardez le nouveau programme GTLD, il y a des efforts de sensibilisation dans diverses régions, mais c'est une région qui a de grands défis quant à l'accès aux documents, et pas seulement, et dont l'héritage culturel est en jeu quand on passera au nouveau GTLD. C'est inacceptable qu'à ce stade, nous n'ayons déployé aucun effort pour avoir un programme de sensibilisation dans cette région. Il ne faut pas retirer le tapis des pieds, sous les pieds des gens qui contribuent et qui font que les choses se fassent. Les gens ensuite ne croiront plus vos paroles. Et là, inverser les choses, ça va être très très difficile. Merci. D'autres commentaires? Merci, Peter. Je vais essayer d'être bref. J'ai une grande préoccupation avec la suggestion de Katim. Parce que je pense que le format pour cet après-midi n'est pas adéquat. Les gens viennent et s'adressent à nous comme si nous étions une entité qui peut influencer les décisions. Beaucoup de choses qui ont été dites ici n'ont rien à voir avec le directoire. Il y a des questions politiques. Les politiques ne sont pas élaborées par le directoire. Si vous avez un problème politique, allez au forum politique. Lancez un nouveau processus politique. Participez-y. Convainquez les gens là de réouvrir un processus politique qui est fermé. Ensuite, revenez vers nous au travers des différents mécanismes de révision ou de relancement du processus politique, parce que la conclusion, selon vous, est erronée ou il faut le rouvrir. 20% qui effectivement concerne le directoire est tellement dilué par nombre de questions évoquées qui sont dans l'ordre du domaine politique, il est vraiment très difficile d'avoir un véritable échange. Je vous encourage vivement pendant 3 jours à parler avec les gens qui s'occupent de la politique. Ne venez pas ici parce que vous n'êtes pas satisfait de la façon dont vous avez été traité dans d'autres forums. Venez nous parler sur ce que nous faisons, bien ou mal, afin que l'on puisse utiliser le temps au mieux, plutôt que de réécouter la même chose redite encore et encore et encore. Et nous n'élaborons pas la politique. C'est une organisation ascendante, donc ces questions ne nous concernent pas directement. Merci. J'aimerais en terminer avec une information générale. C'est la première fois depuis longtemps que nous avons tenu cette séance à cette heure-ci. Si vous pensez à l'efficacité de cette séance, eh bien, renvoyez cela au forum adéquat. Merci à tous d'avoir participé, de vos contributions. Merci aux membres du directoire d'avoir répondu. Nous allons reprendre demain matin avec le programme les rapports du conseil NSCO et puis ensuite la réunion du conseil d'administration lui-même. Je vous retrouverai demain matin avec plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée.